refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
C'est encore Noël. Bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match. C'est la 19e de la saison. C'est la dernière de l'année 2020 en direct et avec, comme chaque samedi soir, le meilleur de l'expertise et du décryptage pour tous les publics, pour vous informer, pour vous distraire, pour vous faire participer également à tous les débats chauds de la semaine, en espérant que Noël s'est bien passé. Vous le savez, dans un contexte malheureusement toujours aussi particulier, raison pour laquelle nous avons vraiment envie autour de cette table de vous et de nous changer les idées avec bienveillance et sans concession. Avec moi ce soir et en studio, Dominique Sévrac du Parisien Aujourd'hui en France.
Bonsoir Christian, au moins avec vous il y a 19 journées dans la phase aller.
Voilà, exactement. Voilà. Le championnat ne s'est pas arrêté à un moment donné. On en reparlera peut-être ce soir, en tout cas d'ici 19h. Le Parisien Aujourd'hui en France, partenaire évidemment du service des sports de l'antenne de RTL tout au long de cette saison. Karim Nedjari, notre monsieur foot, institution et actualité média, lui-même directeur éditorial sport à Webedia. Bonsoir Karim.
Bonsoir à tous.
Bruno Constant, la voix du football anglais sur l'antenne de RTL. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Ça tombe bien, avec le Boxing Day, on en parlera également. Et le procureur dont on fait le match, Gilles Vernez, à l'analyse toujours tranchante et chirurgicale. Bonsoir Gilles.
Bonsoir, avec bienveillance, je vous promets d'essayer.
Émission 100% interactive réalisée par Dany, qu'on salue en technique, en régie. Salut Dany. Filmée sur RTL.fr ou via l'application avec tous ses podcasts, dont celui dont fait le match. Vos messages également, car cette émission, si elle est 100% interactive, elle s'appuie sur l'ensemble de vos remarques relayées par Baptiste Durieux sur Twitter, @RTLFoot. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonjour tout le monde.
Alors ce soir, si je vous dis Tourelle, Pochettino, Domenech, Mbappé, Le Graët, Maradona, Benzema, arbitrage vidéo, match à huis clos, Média Pro et Foot Business, eh bien ce sont les débats qui vont nous animer jusqu'à 20h avec les tops et les flops de l'année 2020, choisi par tous les débatteurs dont fait le match. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Voilà, petite musique de Noël. Je crois qu'on peut, nous sommes le 27 décembre, les amis. Je crois qu'on peut encore profiter
Le 26.
Le 26, nous sommes le 26.
Si proche du 27.
Voilà, si proche du 27, effectivement. Merci, Karim. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On va d'abord s'occuper de l'actualité chaude de la semaine jusqu'à 19h. Domenech, dans un instant, dans un quart d'heure à Nantes. Faut-il croire au Père Noël? Et le remplacement de Thomas Tuchel par Mauricio Pochettino, soir de veille de Noël, ça a été annoncé le 24 au soir par Leonardo à l'intéressé. Mais il y a cette question, fallait-il être un ravi de la crèche, messieurs, pour faire semblant de ne pas croire à un tel scénario? Franchement.
C'était inéluctable, effectivement.
Dominique Sévrac.
C'était inéluctable. À partir du moment où Leonardo est revenu au club en 2019 avec un entraîneur qu'il n'avait pas choisi, la fin, elle était connue. Il nous manquait juste le timing. C'est arrivé dans la nuit du 23 au 24 décembre.
C'était du 23 au 24, décidément, j'ai du mal avec les dates.
C'était
alors.
Juste après PSG.
Ah, je pensais que c'était le 24 au soir. Décidément, j'ai du mal.
Si vous pouvez nous dire comment va se passer le jour de l'an.
Mais ça a été annoncé après minuit, donc le 24.
Oui, dans la nuit du 23 au 24.
Oui, donc le 24.
Non, après minuit, donc dans la nuit du 24 au... Du 24 au 24. Après le 24.
Le match à Strasbourg,
pas mal. Pas mal
essayé. PSG Strasbourg, c'est le 23.
Voilà, c'était à 21h le 23.
Voilà.
Et ça, avait été annoncé après minuit. Nous étions le 24.
Si vous voulez.
Voilà.
D'accord.
Il a fait ses bagages le 24.
Dans la nuit du 23 au 24.
En tout cas, il est passé au camp des loges avec ses adjoints, prendre ses affaires.
Oui, il a vidé son casier, comme tout le monde. Et donc voilà, oui, on lui manquait juste le timing. Et ben voilà. Mais sinon, c'était inéluctable. Il avait procédé de la même manière avec Antoine Comboiré. Il voulait absolument. Carlo Ancelotti, il a attendu la même fenêtre, la trêve de Noël, et voilà.
Alors faut-il être un ravi de la crèche pour faire croire que ce scénario n'existait pas, Gilles Vernez? Il n'aurait pas existé.
D'autant que Tourelle lui-même, à mon avis, a quand même, alors je dirais pas totalement consciemment, mais au moins consciemment. Ouais, oui, il a tout fait pour partir, pour toucher des indemnes. Il savait qu'il était condamné, il n'y croyait plus, il parlait à plus grand monde, à part son clan, sa garde rapprochée. Il a fait des erreurs de communication majeures. Dès que vous critiquez le Qatar, vous êtes viré. Donc il a critiqué le Qatar globalement, avec des strates. Il n'a pas critiqué Doha, mais il a critiqué ce que faisait le Qatar. Il a été viré, c'était normal. Effectivement, inéluctable. Et même pas triste, parce qu'il laissera une empreinte... qui ne sera pas gravé dans le marbre parisien.
Bah, c'est l'un des plus beaux, entre guillemets, palmarès, en tout cas détenteur de trophées, depuis l'ère du Qatar, tout de même. Deux titres.
Et puis il a aussi la performance
de se faire virer. Une finale de Ligue des Champions.
Une finale de Ligue des Champions, il se fait virer trois mois après.
En fait, le problème, c'est qu'à force de se couper de tout le monde, il est arrivé, il avait tout le monde dans sa poche. Il s'est coupé après un petit peu de Doha, en critiquant évidemment à travers cette interview. Il s'est coupé ensuite de la direction avec Leonardo. Il faut dire que Leonardo ne lui a vraiment pas tendu la main non plus. Et semblerait-il, petit à petit, il s'est coupé aussi des joueurs. Donc c'était très compliqué pour lui de rester en place. Mais avec le PSG, on est tous autour de cette table, on l'a suivi pendant des années. On sait qu'il faut se douter de rien, surtout à partir de Noël. Moi, j'ai vécu le départ de Charles Bietri la veille de Noël, en 98. Mmh. On a eu celle de Camboire aussi, pas loin.
Celle de Laurent Fournier.
Et Laurent Fournier aussi à Noël. À Noël, quand vous êtes entraîneur ou président, il faut toujours se méfier au PSG. Il arrive toujours une bûche.
Bon, oui, d'accord. Oui, mais bon, ça, c'est le fruit du hasard, peut-être. Parce que les directions successives sont des directions aussi différentes des unes des autres.
C'est que ça leur permet à chaque fois d'avoir un petit peu de temps de réflexion pour se dire, tiens, ça permettra de relancer la machine. Là, pour la première fois, le PSG de l'ère Qatari n'est pas en tête largement à la trêve. Donc il y a vraiment même danger pour le titre. Donc,
oui,
il fallait prendre une décision.
Quand ça vous arrange, vous me parlez du championnat pour vous dire que là, effectivement, il fallait virer Tourelle parce que le championnat, les objectifs ne sont pas remplis. Et quand ça vous arrange, vous me dites finalement, le championnat, c'est pas l'objectif du Paris Saint-Germain.
Viré, hein,
mais c'est la Ligue des Champions. Ah,
c'est pas nous qui l'avons viré, c'est le PSG qui l'a viré.
Je réponds à Karim, Karim Nedjeri.
Ah non, mais si. Bon, enfin, Gilles,
juste par rapport à ce que vous disiez, Christian, ce ne sont pas du tout des hasards. C'est une suite de décisions qui, effectivement, permettent au PSG, à chaque fois, quand Fournier a été viré, quand Comboiré a été viré, quand Tourelle a été viré, permettent au président ou au directeur sportif d'optionner un entraîneur qui, 6 mois après, n'aurait pas été libre peut-être, ou de croire que cet entraîneur va être l'homme providentiel.
Donc tout était prémédité d'une certaine
façon. Absolument, mais à chaque fois, pour sauver une demi-saison, ou se dire que si on ne prend pas Pochettino, si on ne prend pas Ancelotti, ou c'était le successeur Guy Lacombe, non ? Guy Lacombe, si on prend pas Guy Lacombe, parce que c'est Blaillot qui voulait absolument Guy Lacombe à l'époque, si on prend pas celui-là, on l'aura pas 6 mois plus tard, donc allons-y.
Dans tous ceux que vous avez cités, effectivement, Laurent Fournier et même Philippe Bergerot, de mémoire.
De toute façon, c'est novembre à peu près.
Quand on vire quelqu'un au soir d'une victoire 4-0, c'est forcément prémédité, parce que ce match-là comptait déjà plus. Moi, le timing me choque. Clairement, déjà, ce qui s'est passé dans l'histoire du PSG, quand ils ont viré Camboré pour mettre Ancelotti, on a vu ce qui s'est passé à la fin, c'est que le PSG était premier au moment du licenciement de Camboré, ils ont fini deuxième. Je ne vois pas ce que Pochettino, si on connaît un tout petit peu Pochettino, la façon dont il travaille, ses charges extrêmement lourdes en début de saison, durant la préparation estivale, comment Pochettino va remettre de l'ordre dans ce vestiaire en l'espace de quoi, 10 jours, pour préparer le début de l'année de 2021.
L'objectif, Bruno, c'est d'arriver en forme pour le 16 février, le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. On peut imaginer qu'en janvier, le PSG va continuer à expédier les affaires courantes, à la fois en gagnant des matchs.
Mais tu répares pas une préparation estivelle qui s'est mal passée en 10 jours ou 15 jours. C'est pas possible.
C'est son boulot.
C'est pas possible.
Mais cela dit, Dominique a raison. C'est-à-dire que l'état de grâce durera jusqu'à Barcelone.
Bien sûr.
Si Pochettino se fait sortir contre Barcelone, l'état de grâce sera terminé.
C'est une pression immense que ce que le PSG se met, et à la fois sur Pochettino, mais sur eux-mêmes, les dirigeants. Parce que tout va jouer quasiment cette saison sur Barcelone. Alors que Pochettino va être là depuis quoi ?
Mais quelle était l'assurance, Bruno, que tu
passais Barcelone ? Alors que si tu gardais Tourelle, moi je n'étais pas pour garder Tourelle, je trouve que le jeu depuis un an et demi, le match retour contre Manchester United en mars 2019, le jeu s'est complètement effiloché, il n'y a plus rien, il n'y a plus de collectif, ça repose que sur des individualités, on ne voit pas où voulait venir Tourelle. Mais là, clairement, il fallait laisser au moins aller jusqu'à la fin de la saison et puis le sanctionner à la fin de la saison, quoi qu'il arrive.
Mais Bruno, quelle était l'assurance du Paris avec Tourelle de passer Barcelone ? Moi, je la connais pas. Et quelle était l'assurance du PSG de continuer à avoir autant de blessés ou moins de blessés avec Tourelle ?
Dominique, avec un tel raisonnement, quelle est l'assurance avec Pochettino de passer quand même le cadre de Barcelone ?
C'est la même incertitude.
Aucun.
Non, mais j'essaie de me mettre à la place de ceux qui ont décidé. C'est la même incertitude. Donc, il n'y a pas plus de chance ou moins de chance par rapport à ce que vient de dire Bruno sur Barcelone avec
Tourelle. Mais pourquoi changer ? Pourquoi changer ?
C'est neutre. En revanche, la communication dont a parlé Gilles, les blessures, tout ça, ça peut changer avec Pochettino. Ouais.
Il y a une autre idée qui vient de Barcelone et des journaux espagnols, c'est qu'un des meilleurs joueurs du monde, qui s'appelle Lionel Messi, est libre dans une semaine ou deux. Et que les négociations de contrat pour l'année prochaine tournent autour de Lionel Messi. Lionel Messi n'a jamais été entraîné par un entraîneur qui ne parlait pas couramment espagnol. Il a besoin, en plus il vient de Rosario, où a commencé aussi Pochettino. Et comme tout est État, tout est raison d'État au Qatar, si jamais il y a une chance pour récupérer Messi avec un entraîneur argentin qui vient de Rosario, qui parle espagnol.
Alors, je
ça
bien.
Peut être aussi
c'est
ça.
Pas mais il était dans le Parisien aujourd'hui.
Dans le Parisien aujourd'hui en France.
Le Parisien. Je le dis tous les matins, mais bon,
le Parisien aujourd'hui en France rappelle, un, effectivement, qu'ils sont issus, originaires de la même région, que deux, récemment, avant l'arrivée de Koeman, Lionel Messi voulait absolument la venue de Pochettino, ça n'a pas pu se faire. Le Parisien aujourd'hui en France, ça me semble pas être là la raison principale. Rappelle que les deux hommes ont une maison, alors Messi ça s'entend, mais Pochettino également. Alors voilà, c'est donc attendez, vous dites que Pochettino aurait servi d'appât pour faire venir Lionel Messi?
Non, c'est pas possible. Ça serait une erreur gravissime. Misé sur Pochettino pour un Messi, de toute façon Messi cet été, il y a que deux clubs qui peuvent l'attirer, c'est Manchester City et le PSG. C'est les deux, ce club qui financièrement aurait les moyens de l'attirer.
Bruno, s'il y a une chance pour le Qatar de l'avoir, ils mettront tout.
Je suis entièrement d'accord.
Le choix de Leonardo, c'était Massimiliano Allegri.
Exactement.
L'Italien. Il n'y a aucune chance avec Allegri que Messi vienne, ils ne se connaissent pas.
Et là, en sous-texte, est-ce que ça ne met pas aussi en position de faiblesse la deuxième pièce du maillon du Paris Saint-Germain, Leonardo? Est-ce que c'est Leonardo qui a pris la décision de faire venir Pochettino? Non. Ah ben non, c'est toujours Doha. Est-ce que ça va plaire à Leonardo de pouvoir cohabiter avec Pochettino?
C'est clairement le Qatar qui a repris la main là au PSG. Clairement. Puisque ce n'est pas le choix de Leonardo.
Gilles Verbeek.
C'est un peu moins simple. Si Leonardo déplaisait à l'émir du Qatar, il ne serait déjà plus là. Leonardo, il a toute la confiance. Souvenons-nous que quand ils ont pris Leonardo, ils lui ont dit « Tu fais ce que tu veux. »
Ce qui n'est pas le cas.
Fais ce que tu veux. Tu veux être entraîneur, tu veux être directeur sportif, quasiment tu veux être président. Tu fais ce que tu veux. Et ce que tu veux n'a pas été remis en question dans le fonctionnement du club, sauf peut-être là, ok, sur le choix de l'entraîneur.
C'est mais important, si, c'est oui, important. Vous n'êtes pas obligé de bazarder tout le puzzle, vous pouvez le faire pièce par pièce.
C'est plus important. T'es responsable du football et du technique, donc t'as le choix de l'entraîneur, et on te dit, bah non, on va pas prendre ton choix, on prend plutôt cet entraîneur parce que c'est nous qui le voulons.
Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas de défiance entre Leonardo et Pochettino. Il y avait une défiance entre Leonardo et Tourelle. C'est toujours l'émir qui actionne le bouton, mais c'est Leonardo qui a dit « Je ne veux plus de Tourelle », qui l'a fragilisé depuis des mois. Ne sous-estimez pas...
Il lui a donné satisfaction en virant Tourelle.
Absolument. Ne sous-estimez pas l'intelligence politique de Leonardo. Leonardo, il y a quelques mois, on l'avait dit ici, il a dit au Qatar « C'est plus possible. Tourelle, ça devient n'importe quoi, il ne gère plus rien. Il sort parce qu'il y a beaucoup ça, Dominique parlait des blessures. On leur reproche beaucoup aux joueurs des blessures qui sont liées à un certain mode de vie. Tourelle sortait avec les joueurs, je vous l'avais dit ici. Il buvait des coups avec les joueurs. Il n'avait plus d'autorité. Quand vous buvez un coup le soir avec un joueur, comment vous pouvez le sortir le lendemain parce qu'il joue mal? Mais Christian, je sais que...
Non, mais j'entends ça. Mais moi, je présente Pochettino comme étant très proche des joueurs.
Discipline.
Hein, on verra la suite.
Discipline.
Non, mais vous pouvez... On ne peut pas dire que Leonardo sort grandi de ça. Ah bah non. Je suis d'accord avec vous que c'est un génie de la politique, de la stratégie. Si vraiment il avait la main, s'il aurait choisi Allegri, parce qu'il est persuadé qu'il faut un joueur, un entraîneur qui ait de l'autorité et qui a déjà un palmarès. Je vous rappelle que Pochettino n'a aucun palmarès.
Donc, il a 50% de satisfaction.
Mais je pense que c'est plus une demi-défaite pour lui qu'une demi-victoire. Pour Leonardo.
Tourelle ne restait pas, quoi qu'il arrive, à la fin de la saison.
Il traîne sur certains dossiers pour le Qatar qui est important. Il n'a toujours pas prolongé Neymar, il n'a toujours pas prolongé Mbappé, et il n'arrive pas à vendre des joueurs. Donc ça, c'était aussi une de ses missions.
Alors parlez-moi des joueurs, justement. Les joueurs, un seul soutien déclaré, un seul soutien public, c'est Mbappé sur les réseaux sociaux.
Il a fait la même chose avec Emery. Hein. C'est pas un soutien, c'est une manière d'être un gentleman, d'être poli avec les gens.
C'est le respect.
Mmh. Il a un coach qui s'en va, qui a travaillé avec lui. Emery n'a pas, il y avait une année en option, il n'a pas été gardé la troisième année. Il lui a fait le seul message, le premier et le seul, parce que c'est en deux ans après, c'est pareil. Le premier et le seul message à ce jour, vous allez peut-être me contredire, peut-être il y a une demi-heure, mais moi j'en connais
pas.
J'en
ai pas vu.
Voilà, c'est Mbappé. Pareil avec Emery, pareil avec
Tourelle. Et il semblerait que dans l'entourage de Neymar, en revanche, on fasse connaître un point de vue un peu différent, un peu plus mitigé, un peu de regret même de ne pas avoir...
Vous savez, dans le milieu du football, il ne faut pas avoir de regret, on va voir ce qui va se passer. Dans une semaine, tous les joueurs diront, on a retrouvé du plaisir à l'entraînement, on a enfin un système tactique, on a un entraîneur avec qui on travaille, enfin on a retrouvé l'intensité, et il y aura un état de grâce pour tous les entraîneurs qui arrivent. Parce que tous les joueurs sont très ravis quand il y a quelqu'un qui arrive, parce que les cartes sont redistribuées malheureusement.
Bruno Constant.
C'est peut-être aussi parce que Neymar aura moins de liberté que Pochettino. Parce que Pochettino, ça va être une autre paire de
manches. C'est quoi le style Pochettino? Alors voilà, c'est bien fait. Le monde est bien fait finalement, parce qu'on savait ici tous que Pochettino allait remplacer Vincent Tourelle.
J'ai joué un peu mon rôle.
Et quand on a fait le casting d'On refait le match, tout de suite, on s'était dit que Bruno Constant, le samedi soir, pour nous parler de Pochettino, c'était le meilleur profil. Le style Pochettino.
Le style Pochettino, c'est énormément d'investissement. C'est une passion extraordinaire pour le jeu, pour ses joueurs aussi. C'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs, qui arrive à souder, à créer une osmose entre lui et ses joueurs. Des relations passionnées mais dures aussi, comme l'avait expliqué Hugo Lloris. C'est beaucoup d'investissement dans le travail, énormément de travail. C'est des séances, des doubles, voire triples séances en début de saison. C'est une charge très très lourde pendant l'été. Et c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition dans le jeu, mais qui fournit aussi beaucoup d'efforts, qui est capable de prendre la possession, d'aller agresser son adversaire, mais aussi d'attendre, de patienter avec une possession. On repart depuis le gardien. Et voilà, ce qu'il a fait de Tottenham, il a transformé Tottenham, il l'a modernisé en une équipe qui postulait pour les 4 premières places du championnat d'Angleterre en un finaliste de Ligue des Champions. C'est franchement, tous ceux qui ont été voir Tottenham sous Pochettino, ils étaient séduits par le jeu.
Je vous rappelle que vous êtes la voix du foot anglais, notamment, et pas seulement, mais quand même, sur l'antenne de RTL, et qu'on peut retrouver un podcast toutes les semaines consacré au foot anglais qui s'intitule
100% foot anglais. 100%
foot anglais. Quand j'entends, messieurs, quand j'entends Bruno Constant nous parler de la méthode Pochettino, je vais un peu caricaturer, ce n'est pas mon style d'habitude, je pense à la méthode un peu Bielsa, c'est-à-dire...
Ah bah c'est un disciple, hein.
Ouais, c'est un des disciples. Ouais.
C'est son mentor, Bielsa, à Pochettino. Hein.
Ah bon il était très 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 inspiré.
Il l'a eu comme entraîneur en sélection argentine et à l'Espagnol de Barcelone.
C'est lui. Oui, c'est d'accord.
Mais c'est son mentor, c'est revendique.
Bielsa, c'est lui qui a lancé sa carrière professionnelle, parce que c'est lui qui est venu le repérer chez lui, en plein milieu de la nuit, au fin fond de l'Argentine, en regardant juste ses pieds. Il a dû montrer moi tes pieds, il a regardé ses pieds, ses jambes. C'est ce qu'a raconté Pochettino.
Bruno, il y a une chose aussi qui est importante chez Pochettino, que c'est un homme, visiblement, qui ne fait pas de concessions. Ni aux joueurs, ni à son actionnaire. Sauf que le PSG, il y a une chose qu'il faut apprendre tout de suite, c'est de faire des concessions.
Mais
c'est-à-dire que si le Qatar décide que Aurier doit jouer à Manchester City, Aurier joue à Manchester City. Si Neymar ne veut pas s'entraîner, il ne s'entraîne pas. Et là, il y a des joueurs et des puissances qui sont supérieures à l'entraîneur. S'il ne sait pas faire ça, il sera comme les autres, mais il explosera.
Moi, ce que j'entends dans ce que dit Bruno, c'est que le PSG de Tourelle, c'est donner le ballon à Neymar et après on verra ce qui se passe. Mais là, j'entends qu'on va peut-être avoir enfin une équipe. Neymar ou pas Neymar, Di Maria pas Di Maria, Mbappé pas Mbappé. On risque, c'est-à-dire un risque positif.
Pochettino enfin donc va apprendre Neymar, va apprendre à Mbappé,
à une équipe et concours,
à défendre et à courir.
Bah, ça ne reposera pas sur deux individualités, c'est pas possible. Non. C'est pas le jeu de Pochettino.
Gilles Verdez.
Il va les faire travailler. Le mot d'ordre, c'est ça. Leonardo n'en pouvait plus ces dernières semaines parce que, il faut dire les choses, plus personne ne bossait dans cette équipe. Les joueurs ne bossaient plus. Et donc, Leonardo a alerté le Qatar et a dit, on ne peut plus continuer comme ça. Les joueurs ne bossent plus. Donc, il va les remettre au travail. Après, il faut voir de quelle manière, dans quel ordre, dans quel style et si les joueurs vont adhérer. Mais il va les remettre au boulot. C'est ça le truc. C'est arrêter la fumisterie. Maintenant, on bosse.
Ce 18, oui.
Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on me disait qu'avec Emery, il bossait pas. Avec Laurent Blanc, il ne bossait pas, qu'il était temps d'arrêter, qu'avec Tourelle. Pourtant, Tourelle, qu'est-ce qu'on n'a pas dit quand on est arrivé ? C'était la discipline allemande, que ça allait bien jouer. Pendant 6 mois, on s'est régalé et tout se délite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ce club qui fait qu'à un moment donné, l'autorité se délite aussi.
Et
donc, ce n'est pas Pochettino qui va changer les institutions.
Le projet du PSG, comme tu l'as dit, c'est un projet individualiste. Le Qatar met en avant un projet individualiste avec des stars.
Exactement,
il faut qu'il y ait Neymar, il faut qu'il y ait Messi, il faut qu'il y ait un ballon d'or. Il n'y a jamais le projet d'avoir une équipe. Et donc, ça ne peut pas marcher.
Avez-vous entendu
le foot, c'est
une équipe.
Avez-vous entendu la petite musique de Noël ? On va passer au deuxième débat, parce que là, fallait-il être un ravi de la crèche pour faire semblant de ne pas croire à un tel scénario ? Bon, on savait à peu près tous que le changement allait s'opérer, qu'on était surpris du choix à Pochettino et qu'on voyait plutôt...
Allegri, il faut quand même que je pose une question à Bruno, parce que les Anglais disent Pochettino et nous, on dit Pochettino. Alors, quelle est la vérité ?
Pochettino ?
Oui, mais en même temps, dans les pages du Parisien, peu importe.
Oui, ça change pas.
Oui, mais on va en parler quand même.
Il y a des podcasts maintenant dans le Parisien.
Après la pub, les amis, après la pub, Raymond Domenech au FC Nantes. Croyez-vous au Père Noël ?
Est-ce que c'est bien écrit tous ces titres ?
C'est la question qu'on va vous poser dans un instant. 18h48, on fait le match jusqu'à 20h. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Dominique Sévérac, avec Bruno Constant, avec Karim Nedjari, avec Gilles Verdez, avec vous tous qui nous écoutez bien évidemment en cet après Noël et avant, bien sûr, le jour de l'an. C'est dans une semaine, on aura l'occasion d'en reparler. Mais vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter avec vos messages, notamment sur le compte Twitter @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Absolument, et c'est pas la joie forcément sur les réseaux sociaux. Message de Johan, oui, on n'en pouvait plus de Tourelle et c'était réciproque, il n'en pouvait plus aussi. Mais l'arrivée de Pochettino, ou Pochettino, je vous laisserai choisir, ne va pas du tout résoudre résoudre tous les problèmes de fond dans ce club. Tourelle avait raison finalement, le PSG ce n'est pas que du foot et le problème central est là. Et puis message d'Alexis qui est aussi pessimiste. Je souhaite évidemment à Pochettino de s'imposer, de tout gagner et de faire passer un cap à cette équipe tactiquement et physiquement, mais je n'y crois pas. La seule victoire finalement pour lui sera de rester le même jusqu'au bout et de ne pas devenir fou. Au PSG surtout, ça se termine toujours mal et tout ne dépendra pas de lui.
On suivra cela de très près. D'ailleurs, à ce propos, ce n'est toujours pas annoncé officiellement et signé officiellement d'ailleurs.
Parce qu'on ne peut pas tant que Tourelle n'a pas reçu son petit chèque.
Entre 5 et 7 millions d'euros pour lui et l'ensemble du staff. C'est un vrai business.
Je pense que c'est plus que ça. C'est 7 rings pour lui. Et
ah bon
et
7,
il va c'est falloir un vrai business. Donner un petit
ce
peu
qui fait autres. Aussi, Christian, que ce club-là est différent des autres, c'est que ce club-là peut se permettre de ne pas compter. Ils viraient quand ils veulent.
Est-ce que Valdemar Quitta peut se permettre de ne pas compter? Raymond Domenech au FC Nantes. Là aussi, ce n'est pas tout à fait signé. Il y a encore quelques petits détails.
Ça va tomber ce soir.
Signature officielle ce soir.
Ce soir.
Et j'ajoute une petite indiscrétion. Depuis 72 heures, on parle notamment de Fred Bompard, l'adjoint de
Rudy Garcia.
Bazarevic à Guingamp.
Et Fred Bompard qui devrait être.
C'est l'adjoint historique de Rudy Garcia.
L'adjoint, absolument. Ça reste, il l'était à l'Olympique de Marseille, effectivement. Quand il est allé à Lyon, ensuite, Fred Bompard a trouvé un poste d'adjoint à Guingamp. Ce n'est pas encore officiel, mais malgré les démentis, etc., on essaye de mettre dans les tuyaux tout de même le contrat de Fred Bompard avec donc Raymond Domenech. Domenech à Nantes, messieurs, est-ce que vous croyez au Père Noël, le sélectionneur qui reprend une activité 10 ans après l'un des plus gros scandales du football français? Enfin, à ce jour, en tout cas, on parle de Naïsna. Et alors, combien de temps depuis
27 ans.
1993, après un...
Il avait fait monter Lyon de la deuxième division de l'époque à la première division et l'avait amené en Coupe d'Europe.
Nantes est combien, Christian, au classement? Nantes, ils sont combien?
On me dit que c'est officiel dans l'oreillette. Baptiste Durieux a peut-être davantage d'informations. Baptiste qui va se projeter sur son micro RTL et qui me confirme dans l'oreillette, donc Baptiste, que c'est officiel à l'instant même.
Absolument, c'est le compte Twitter du FC Nantes qui vient donc de tweeter. Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d'entraîneur de l'équipe première jusqu'à la fin de saison 2020-2021.
Donc la formation de Karim Nedjari était bonne et on va voir si mon indiscrétion se vérifie. Hein. En toute humilité, Fred Bompard, adjoint de Raymond Domenech. Ça risque d'être un peu plus compliqué.
Le FC Nantes est combien au classement?
3 points d'avance simplement sur la lanterne rouge, je crois, à Nîmes.
Hein. L'effondrement est proche, Christian. Ça va être terrible. Ils ont sans doute pris...
Oui, 3 points d'avance et 3 victoires en 17 matchs.
Nantes a pris, à mon avis, le plus mauvais entraîneur français de l'histoire. Le pire sélectionneur depuis Louis XVI, comme disait Eric Cantona. Je vois pas comment un homme qui connaît plus le football depuis 10 ans et qui peut-être ne l'a jamais connu quand il était dedans peut avoir un savoir particulier avec des joueurs qui ont changé, une génération qui va découvrir. Pour moi, c'est un fiasco annoncé, c'est la chronique d'un fiasco annoncé.
Gilles Verdez.
Combien de sélectionneurs français ont conduit nos magnifiques bleus en finale d'une Coupe du Monde? Combien? Très peu. Très peu.
Trois.
Voilà. Dont Domenech.
Il y en a deux qui l'ont
dont
gagné.
Domenech.
Il y en a deux qui l'ont gagné. Hein.
Dont Domenech.
Mais pas Domenech dans les deux.
Vous savez
un
ce que certains vont vous répondre, Gilles Verdez.
Un de nos trois.
En 2006, c'était les joueurs et Zidane qui ont conduit l'ensemble du groupe France en finale. Et pas vraiment Domenech.
Cher Christian, c'est donc pour cela que dans votre présentation, si savamment étudiée, vous oubliez ce fait de gloire qui est une finale de Coupe du Monde. Vous avez dit oui, Lyon, il y a je sais pas combien d'années, et puis Naïsna et tout ça. Finale de Coupe du Monde. Combien de sélectionneurs nous ont conduit à une finale
c'est
de Coupe du Monde.
C'est ça que vous retenez, Gilles ?
Pardon ?
C'est ça que vous retenez ? Vous retenez la finale de la Coupe du Monde ou Naïsna ?
Mais pourquoi ? Mais alors, ça, c'est dingue, alors. Je veux bien retenir les deux, mais vous ne retenez que Naïsna. On est à charge avec Domenech. Domenech est un technicien reconnu qui a défendu les entraîneurs français de tout temps.
Naïsna, c'est ce qui est arrivé de pire.
Oh, Domenech, il a une connaissance encyclopédique du football.
Non, mais écoutez ce que vous dites, Domenech.
Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il dit toujours la même chose depuis 20 ans.
C'est vrai ou pas ?
Qu'est-ce que tu dis ?
Naïsna, c'est ce qui est arrivé de pire dans le football français ou pas ?
Ouais, il aurait peut-être pas dû aller jusqu'au bout, lire la lettre, faire ce truc-là, d'accord.
Mais c'est pas bien grave.
Alors maintenant, il est responsable de la rébellion des
joueurs.
C'est
un effondrement moral. Et toi qui es à cheval sur les questions morales, tu nous dis que c'est rien en fait.
Ce qui est hallucinant, c'est que Domenech n'est pas responsable de nous mener en finale de la Coupe du Monde, mais il est responsable de Naïsna. Moi, je veux bien qu'il soit responsable, mais de tout. Donc bravo à lui pour cette belle finale.
La Coupe du Monde, j'ai jamais dit le contraire. Hein.
Bravo à lui pour cette belle finale.
La passe d'armes de mes amis Sévrac et Verdez, prouver une bonne chose, c'est que le football français avait besoin.
Ah non, non, pas ça, Raymond, pas ça, Karim. Alors,
avait
voilà,
besoin,
voilà.
Avait besoin de, persona, de alors, personnages.
De personnages pour ne pas parler de la qualité du jeu.
De
non, non, si on en est là, voilà, moi je rends mon tablier, si vous voulez.
Mais,
non,
c'est Christian, nous sommes les chroniqueurs du football circus, oui, comme dit un de nos amis.
Il nous faut raconter des histoires pour oublier la qualité du foot sur le terrain, c'est ça.
Au moins, avec Kita Domenech, on va avoir des débats tous les samedis ici. Et dans toutes les émissions.
Il y a surtout à voir l'effondrement des résultats de Nantes qui n'étaient déjà pas élevés. Nantes va s'enfoncer en Ligue 2 inéluctablement entraîneur qui est incompétent et qui n'a jamais montré aucune compétence à part une finale de Coupe du Monde.
Gilles, vous connaissez effectivement les questions un peu provocantes que je pose, mais pour susciter le débat en même temps, Dominique Sévrac, est-ce qu'il n'a pas le droit il est presque condamné à une deuxième chance.
Voilà, quoi, bien sûr. Mais j'ai pas dit qu'il ne devait pas entraîner. Je dis simplement, il entraîne. C'est pas moi qui ai fait le choix. Je vous dis simplement ce qui va arriver. Mais je l'empêche pas d'entraîner. S'il veut continuer après Nantes, prendre Bordeaux, Lorient, Lille jusqu'à 92 ans, il peut, il n'y a pas de problème.
Le problème, c'est que c'est effectivement un bon choix pour nous journalistes, parce qu'il va avoir plein de choses à raconter, il va se passer plein de choses, parce qu'il est constamment dans la provocation. Si on pense aux supporters, moi je suis très inquiet, c'est désespérant. C'est désespérant, on ne peut pas le condamner avant, ça se trouve, ça va marcher, ça va réussir. Mais en même temps, à chaque fois on rappelle, il a pu entraîner depuis 10 ans. Mais c'est pas ça, c'est pas qu'il a pu entraîner depuis 10 ans. Il a pu entraîner un club depuis 27 ans. Et sélectionneur, entraîneur du club, ça n'a rien à voir. Sélectionneur, vous récupérez les joueurs sur 4 jours, 5 jours par mois, une fois tous les deux mois. Entraîneur de club, c'est tous les jours, tous les matins.
Ça, gérer c'est un club, argument,
gérer un vestiaire, c'est tout ça. Est-ce qu'il est capable de le faire?
Il est capable de tout. Le problème de Nantes, c'est pas Domenech. Le problème de Nantes, c'est pas Domenech, c'est Kita, c'est le président. Et si quelqu'un peut faire entendre raison à Kita par sa personnalité, son tempérament, lui dire on arrête avec ces agents là, les agents qui vérolent le club, mais virez-moi ces gars là. Ils font la loi à Nantes.
C'est Kita qui les fait venir.
Mais Domenech va arriver, il va dégager tout ça, il va apurer tout ça.
Alors comment t'expliques si Nantes va... Parce que là, tu nous dresses le tableau d'un quasi-génie. Comment t'expliques que pendant 10 ans, il soit resté sans club?
Mais à cause de vous, Dominique, l'avez vilipendé, traîné dans la boue après Nagelsmann, il s'en remet juste aujourd'hui. Et donc, pour vous, Domenech, c'est l'homme de Nagelsmann, c'est écrit maintenant l'homme de Nagelsmann. Non,
c'est pas
l'homme de la finale.
C'est pas moi qui fais les événements, Gilles. L'homme de Nagelsmann, c'est lui parce qu'il était à Nagelsmann. Moi, j'étais aussi, mais il se trouve que c'est lui.
Je rappelle que c'était l'homme également qui ne voulait pas faire travailler Ranieri parce qu'il avait dépassé la limite d'âge.
On vous parle humanité, vous me parlez de quelques règlements administratifs obsolètes. Ça me déçoit.
Pour les auditeurs, je rappelle que Domenech est le président, le patron des entraîneurs, et que lorsque Ranieri a débarqué à Nantes, il voulait s'y opposer car Ranieri avait dépassé la date limite d'âge d'exercer, qui était de 65 ans. Il en a 69.
Il avait surtout un côté franchouillard.
Et il est toujours président du syndicat des entraîneurs.
Parce qu'il a un côté franchouillard en tant que syndicaliste. Il défendait les entraîneurs français. Ça aurait été un entraîneur français. Il n'aurait pas eu ce comportement-là.
Si, je te dis qu'il l'avait dit. Non, mais il avait dit, même un Français, il ne l'aurait pas donné. Non, ce qui est rigolo avec Domenech, c'est qu'il prend toujours tout le monde à contre-pied. Et il est toujours dans la provocation. Donc là, on peut
penser... Il y a un corporatisme chez Domenech en tant que syndicaliste qui est insupportable.
Oui, mais il défend à chaque fois le maillot où il est. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Là, de mauvaise foi. Là, visiblement, il arrive pour aider Ziani à prendre la dimension de ce club-là. Et essayer de relancer un petit peu tout ce club où il y avait une brisure entre l'entraîneur et le centre de formation. Donc il va essayer d'apaiser ça. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit sa qualité première d'apaiser les choses.
Il va falloir que ça cimente sérieusement les joueurs, parce que le vestiaire est sérieusement fissuré.
Les 10 ans être remarquablement chroniqueur dans des émissions de qualité ont fait peut-être qu'il a appris à connaître un petit peu le monde du football.
Le problème, c'est que ça ne fait pas de lui un bon entraîneur aujourd'hui. Et moi, ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'était passé avec Giroud, quand 2 ans après sa retraite à Auxerre, il avait rejoint Lens. Ça avait été une catastrophe. Il était écarté des terrains depuis trop longtemps. Et je ne parlais que 2 ans à l'époque de Giroud. Et Domenech, c'est la même chose. Il a été écarté du terrain pendant trop longtemps.
La conclusion, Gilles.
Mais Domenech, il ne va pas rétablir le jeu à la Nantais. Ça n'existe plus. Il tente de sauver un club exsangue. Et en 6 mois, si quelqu'un peut sauver ce club et vous présenterez Dominique, je vous connais, vous êtes sincère, même quand vous trompez, vous présenterez officiellement vos excuses ici. J'espère que vous m'inviterez, cher Christian. Quand il aura sauvé Nantes, Domenech redeviendra le héros français qu'il était en 2006.
Affaire à suivre, comme on dit. Tout comme pour Pochettino au Paris Saint-Germain, Raymond Domenech à Nantes. Là aussi, ce n'est. Ah si, c'est signé. Bah oui, c'est signé.
On dit Domenech ou Domenech?
Et je rappelle que le premier match du Raymond Domenech, ce sera contre Rennes.
3 points. C'est fou, le PSG l'a raté pour 24 heures. C'est fou.
Et Laurent Blanc, pareil, vous pouvez revenir.
Les informations de 19h et derrière 19h, on fait le match sur 1h. 4 consultants, 4 débatteurs, 4 chroniqueurs avec un top, un flop chacun. Et ça risque de chauffer sérieusement, tout de suite.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Et c'est encore Noël, l'esprit de Noël évidemment dans On fait le match. L'expertise, le décryptage, mais la bienveillance avec des débats chauds depuis 18h30. Je vous rappelle que Raymond Domenech a eu la sagesse d'attendre le coup d'envoi dans On fait le match pour signer son contrat avec Valdemar Quitta. C'est désormais officiel. 6 mois donc jusqu'à la fin de la saison, entraîneur du FC Nantes avec un adjoint dont on ne connaît pas encore officiellement le nom. Il pourrait s'agir de Fred Bompard, l'adjoint de Bazdarević, entraîneur de Guingamp. Mais tout cela reste encore grandement à confirmer, car il y a sans doute des problèmes, on va dire, administratifs à régler. Et cette information, la deuxième que je vous donne, après le transfert officiel de Domenech, la signature officielle de Domenech, cette signature de Fred Bompard est loin pour l'instant d'être acquise. On en parle. On a tout dit sur Raymond Domenech, on a tout dit sur Thomas Tuchel, Pochettino. Je vois Gilles Verdez.
Non, sur Domenech, c'est très beau ce que vous venez d'annoncer, ce contrat à court terme de 6 mois. Certains vont dire oui, à l'époque, il disait qu'il faut des contrats que 2 ans, comme la loi le stipule, etc. Et lui...
Non, pas ici. Parce qu'il prend en cours de route.
Dans un geste...
Donc,
oui,
dans l'article, je ne sais plus quel, alinéa, etc.
Ce que je veux dire, c'est que dans un geste magnanime, il dit, je viens 6 mois et on voit. Je trouve ça beau, voilà.
Bon, c'est bien.
Ce qui aurait été encore plus beau, c'est qu'il signe pour 1 mois, en fait.
Allez, on en reste là avec Raymond Domenech. Je pense que les avis sont partagés. Il y a des arguments pour, contre. Et ça nous fera effectivement du contenu pour les prochaines émissions débat sur l'antenne de RTL. Les tops, les flops, messieurs, vous êtes 4 autour de cette table. Vous avez un quart d'heure chacun pour défendre un top et un flop en rapport avec l'actualité 2020. J'ai envie de commencer avec Dominique Sévrac, parisien aujourd'hui en France. Un top, un flop sur cette saison qui s'est écoulée, Dominique.
Alors en top, j'ai choisi le parcours du Paris Saint-Germain à Lisbonne, dans un pays magnifique, le Portugal, pendant l'été, août 2020, dans le milieu de la pandémie. Paris est allé en finale de la Ligue des Champions et... c'est surtout le résultat d'un très très grand Neymar, un Neymar qu'on n'a jamais vu au Paris Saint-Germain depuis qu'il a signé en 2017, parce qu'il y a eu les blessures, parce qu'il y a eu trop d'affaires, parce qu'il n'a pas été assez souvent un joueur de foot et pas assez souvent sérieux. On parlait des blessures, c'est souvent quelqu'un qui se perd dans les nuits parisiennes. Et là, enfin, quand il joue au foot, on voit à peu près ce qu'on... On voit qu'il n'y a pas d'équivalent sur Terre, à part évidemment Messi, mais voilà, ça reste incroyable.
Alors, on va en débattre de ce top consacré au Paris Saint-Germain, voilà. Cette finale à 8.
Je trouve que,
et le flop
Mbappé qui avait été...
Et le flop
C'est la mort de Maradona.
Oui. Oui.
C'est pas la mort de Maradona.
Non, la mort de Maradona n'est pas un flop.
Non, c'est le fait d'avoir perdu...
L'un des derniers grands romantiques du football mondial.
Ouais,
quoi.
Non pas pour moi le plus grand footballeur de tous les temps, mais le plus grand sportif de tous les temps.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le choix du top de Dominique Sévrac, messieurs? La finale de la Ligue des Champions, le parcours européen, et qui, d'une certaine façon, on en revient à l'actualité de ce début d'On fait le match, a scellé aussi le sort de Thomas Tuchel.
J'aurais partagé ce top si le PSG l'avait gagné cette finale. Dominique, à propos de Domenech, disait il faut les gagner, les finales. Oui, il n'a pas gagné la finale, Tuchel. Et franchement, quitte à aller en finale cette saison si particulière, face à cet adversaire-là, vous deviez gagner la finale.
Donc Domenech trouve davantage, grâce à vos yeux, malgré une finale perdue en 2006.
Oui, alors vous me retournez l'argument que je soulevais pour Dominique, je l'accepte bien
tous
volontiers.
Tous les arguments s'inversent.
Oui, je l'accepte bien volontiers.
Ils ont pris date, Gilles.
Mais en tout cas...
Ils se sont fait un petit nom. Ils ont pris date.
Oui, je pense que... quitte à avoir ce parcours peut-être un peu miraculeux, il fallait aller au bout et remporter la finale. Donc, ce n'est pas un top pour moi.
Ce n'est pas un top pour vous, Karim Nedjari ?
En fait, tout dépend du regard. Si on regarde du regard de Dominique Sévrac et du Parisien, je peux comprendre que ce soit un top, que le PSG, qui n'arrivait plus à passer le quart de finale, arrive en finale et qui nous a fait un peu rêver dans cette période de Covid qui était très dure. Mais en fait, c'était le début du flop de Tuchel. Parce qu'en fait, en allant au bout comme ça, il n'a pas pu préparer sa saison. Il a enclenché une mauvaise... mauvais enchaînement à Lens où ils perdent et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette finale-là, il y avait plein de manques. Lorsqu'ils étaient enfermés au Portugal pendant 15 jours, ils pouvaient donner tout. Et en fait, lorsqu'ils sortent de ce cloisonnement, ce huis clos, le PSG se délite.
En fait, il aurait dû se faire éliminer par Dortmund et préparer tranquillement sa saison.
Peut-être que s'ils se font sortir contre l'Atalanta Bergame, là, Tuchel saute. Et là, ils peuvent repartir sur autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Non, moi je pense qu'il avait une chance de gagner avec des champions, fallait la saisir, fallait la prendre, surtout dans un caractère exceptionnel, parce que Final 8 c'était un tour sur un seul match, donc un peu plus facile, un peu plus imprévisible pour les clubs qui avaient un peu moins d'expérience, parce que tout se joue sur un match, c'est un peu comme la Coupe de France, donc les favoris sont plus en danger, et il ne l'a pas saisi parce qu'il est aussi tombé sur une équipe extraordinaire comme le Bayern de Munich, donc c'est forcément un top, parce que c'est un club français, parce qu'on ne peut qu'espérer, rêver de voir les clubs français briller, notamment sur la scène européenne, où c'est tellement compliqué depuis des années. Et puis parce que Lyon aussi hein, s'est qualifié pour la demi-finale, donc quelque part les clubs français ont porté l'étendard. Mais voilà, il y a le Godin achevé, et encore plus dur pour lui, et c'est là où je comprends sa frustration, sa déception. C'est qu'au lendemain quasiment de la finale, on était reparti dans des critiques sur Tourelle, sur son jeu, sur ses choix, sur tout ça. Et que c'est un peu ce qu'on gardera de Tourelle. Il y aura la finale, mais il y aura surtout les critiques sur son jeu.
Pensez-vous que s'ils avaient gagné, est-ce que Tourelle aurait été viré quand même ?
Moi, je pense quand même.
Oui,
moi aussi, je pense.
Parce que pour moi, la victoire, c'est pas la garantie d'un futur. Chelsea a gagné avec des champions en 2012 après 9 ans d'investissement de Roman Abramovich avec Roberto Di Matteo. Au bout de 5 mois, il était viré. Parce que Abramovich savait très bien qu'il n'était pas fait pour rester sur le banc.
Mais Paris avait un problème de crédibilité sur la scène européenne. Cette finale, je pense, aux yeux de l'Europe, montre que le projet du PSG qu'on a décrié ici, moi j'ai dit que c'était un projet trop individualiste, il peut aussi y avoir une équipe.
Après, le romantisme que dégage et qu'incarne Dominique s'exprime aussi à propos de Neymar. Moi, je suis un tout petit peu plus réaliste et pragmatique. Oui, c'est beau d'avoir vu Neymar sur 3 matchs, mais sur 3 ans, on n'a pas vu Neymar. Donc Neymar, la vie nocturne...
D'aucuns vous diront qu'il a été quand même particulièrement décisif sur les matchs importants de Ligue des Champions.
Oui, mais il n'a pas remporté non plus. Et en finale, il n'a pas été du tout. Pas du tout en finale.
Les matchs de Dortmund et même contre la Talenta.
Pas du tout en finale, excusez-moi.
Ah, pas en finale
mais
ça joue à 11, une finale, ça joue aussi à 11.
Messi ne remporte pas chaque année avec des champions. Voilà,
non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends, hein, Neymar est un très grand joueur, mais après, alors je reste, je pars, ça ne m'a pas plu. Je trouve que Neymar au PSG, il y a quand même beaucoup de gâchis pour moi encore.
Je l'ai dit, hein.
Et donc le flop, mais on avait bien compris ce que vous vouliez dire, Dominique Sévrac, la disparition de Diego Maradona.
C'est le fait que dans cette année si particulière, encore une fois, on ait perdu, non pas pour moi le roi du jeu dont on parle, le dieu du jeu dont on parle ici, le football, mais pour moi le plus grand sportif de tous les temps.
Mi-ange, mi-démon, autour de cette table.
Karine
Adjari.
Moi je ne dirais pas le plus grand sportif, parce que toute la face sombre, mais je trouve le personnage le plus romanesque du sport.
C'est ça.
Parce qu'il a produit, grâce à sa vie, des romans, des chansons, des films. Moi, j'aime son côté obscur et son côté lumineux, tout ça réuni. Après, je ne peux pas dire que ce soit le plus grand sportif, parce que dans le sportif, il y a quand même une notion d'exemple qu'il n'a jamais cherché à avoir. C'est pour ça qu'il est passionnant pour tout créateur, pour tout artiste, pour tout romancier.
Il a suscité des vocations, Karim. Hein, il a été un exemple pour certains.
De joueurs.
Certains argentins.
Oui, de joueurs. Mais comment dire, on ne peut pas dire par rapport à tout ce qu'il a vécu que ça soit le plus grand sportif.
Il y en a d'autres.
Non, mais c'est clairement le dernier football ou dernier joueur romantique, romanesque, effectivement, parce que c'est presque la fin d'un football, moi, je trouve, Maradona, la mort de Maradona. Parce que c'était un football qui était dédié uniquement au jeu. Il n'y avait pas de marketing, il n'y avait pas de publicité ou très peu. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. On n'était pas dans les transferts astronomiques. Et les joueurs pouvaient bouger encore de club. Et c'est quelqu'un qui s'est combattu toute sa carrière, tout au long de sa carrière, contre le rejet. Il était d'un quartier très pauvre de Buenos Aires. À Barcelone, il était quasiment rejeté. Il y a une image où il est blessé, on le laisse errer dans les couloirs du stade du Camp Nou. À Naples, c'était très compliqué. Il a été pris
en main par la Camorra, hein,
exactement,
la mafia locale.
Et piégé et presque en otage par la Camorra. Donc c'était très compliqué. Et l'Argentine, à ses tout débuts, en 1978, il est dans la sélection, il n'est pas retenu par le sélectionneur, il gagne la Coupe du Monde, l'Argentine, sans lui. Et malgré tout ça, c'est quelqu'un qui a réussi à faire gagner des équipes qui n'étaient pas destinées à gagner. L'Argentine en 1986, elle n'a pas l'équipe pour gagner la Coupe du Monde, et il l'a fait gagner. Naples, en Italie, ils n'ont pas l'équipe pour être champion, ils sont à des années-lumière, et il l'a fait gagner quand même.
Donc vous êtes
c'est extraordinaire.
Unanime autour de
Maradona. Le but contre l'Angleterre, non pas celui de la main. Il met un des plus beaux buts de tous les temps.
Plus grand sportif de tous les temps, pour moi, c'est Mohamed Ali. Et là, pour moi, je veux bien entretenir tous les débats, mais alors il est comme Maradona, mais plus. C'est-à-dire qu'il y a plus d'engagement politique, il y a quand même plus de titres, il y a plus de retours, il y a plus de tout. Voilà, pour moi, Maradona est un des plus grands sportifs, mais il n'a pas l'étoffe d'un Mohamed Ali.
C'est le sport universel, c'est le plus grand des sports, c'est le foot. J'adore Mohamed Ali.
Il n'y a aucun joueur qui a provoqué l'émoi partout dans le monde, qui a provoqué la mort de Maradona. Je suis d'accord, pour moi, c'est le plus grand footballeur, pas forcément le plus grand sportif. Mais quand même, il y a un émoi extraordinaire dans tout le monde.
Le top, donc, 2020.
C'est John Lennon, c'est énorme.
Le top 2020, donc le Paris Saint-Germain en finale, notamment de la Ligue des Champions. Le flop, la mort de Maradona pour Dominique Sévrac du Parisien, aujourd'hui en France. Sur les réseaux sociaux, on parle d'à peu près toute l'actualité évoquée depuis 18h30, Baptiste Durieux.
Beaucoup de messages, oui, notamment sur le top de Dominique Sévrac. Réaction Réaction d'Étienne, fidèle auditeur qu'on salue chaleureusement, qui nous dit « Il faut arrêter avec cette finale de Ligue des Champions. Cette compétition avait le même nom, mais pas la même âme. On a retiré les deux choses les plus importantes de cette coupe, les deux choses qui en font la plus grande compétition de football, à savoir le match retour et le but à l'extérieur. Sans ça, ce n'est pas la Ligue des Champions. Pour y rajouter évidemment le terrain neutre, le confinement dans l'hôtel de Lisbonne. Ne brandissons plus cet argument de la Ligue des Champions, je vous en prie. » Le petit coup de gueule d'Étienne.
C'est l'avis d'Étienne.
Oui, mais c'est pas le PSG pas responsable du changement de format.
Certes. Certes. Enfin bon, le Paris Saint-Germain aurait pu s'adapter différemment.
Ils
auraient
peut-être bénéficié, mais c'est le changement de format, c'est l'UEFA. Hein.
On tourne une page de publicité, si vous le voulez bien. Et ensuite, les tops de Gilles Verdez. Le top de Gilles Verdez et le flop de 2020 de Gilles Verdez. On fait le match, 19h14, publicité. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
19h16, on fait le match avec Gilles Verdez, le procureur, avec Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Bruno Constant, la voix du foot anglais sur l'antenne de RTL et Karim Nedjari, Webedia, directeur éditorial sport de Webedia. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Il y a du foot anglais, on en parlera avec Bruno Constant juste avant 20h. Je vous donne quand même quelques résultats qui sont tombés cet après-midi. Leicester et Manchester United ont fait match nul 2-2. Fulham et Southampton, résultat nul 0-0. Aston Villa a battu Crystal Palace 3-0. Et à l'approche de la mi-temps, c'est peut-être même la mi-temps, et c'est la mi-temps, Arsenal mène devant Chelsea 2-0. Lacazette sur pénalty, j'ai pas vu le deuxième buteur.
Coup franc de Xhaka.
Et 2-0, donc
à la mi-temps. À la mi-temps.
Voilà, on en parlera du Boxing Day avec vous, Dominique, avant 20h. Bruno, pardon. Gilles Verdez. Gilles Verdez, le top et le flop de Gilles Verdez jusqu'à 19h30.
Le top, c'est évidemment l'homme de l'année, le phare dans la tempête, Noël Le Graët. Alors oui, on va me dire, il y a un moment, il a minimisé le racisme. Oui, ça bien sûr, je lui pardonne pas tout à fait. Mais quel homme quand même, le 12 mars, il dit on arrête le football, décision sanitaire exemplaire. Plus de football, la Ligue 1 est stoppée. Là, il est en train de sauver la Coupe de France. Merci Noël, c'était son anniversaire, on lui souhaite bien entendu. Il a sauvé le soldat Corinne Diacre, menacé par une rébellion de quelques joueuses énervées. Bravo Noël Le Graët. Quand la Fédération française de football est aux prises avec un management délicat, défectueux, il est là pour assurer la continuité. Donc une année extraordinaire de Noël Le Graët. Voilà, j'espère qu'il va se représenter. Sans lui, avec ce tandem magnifique qu'il forme avec Didier Deschamps, je ne sais pas où on en serait, on serait probablement pas champion du monde. Merci à lui, Noël, et continue longtemps.
Alors, vous riez autour de cette table.
On serait pas champion du monde sans Noël Le Graët, oui. J'avais jamais entendu celle-là.
Mais Gilles Verdez est un homme de conviction. Bien ça, sûr, on peut pas, sûr, effectivement. Et quand on prépare l'émission, on échange sur les thématiques, etc. Et s'il m'en donne l'autorisation, je peux lire le SMS que Gilles m'a envoyé. Absolument. Concernant les tops, les flops. Et Gilles Verdez, c'était Noël Le Graët, visionnaire et gardien du temple, qui sauve le football des rapaces pourvu qu'il reste longtemps.
Bien sûr.
C'est la conviction de Gilles Verdez pour le top.
Mais alors, il tord un peu les faits. Le problème, c'est qu'il tord un peu les faits.
On va y revenir dans un instant. Le flop de Gilles Verdez.
J'aurai le temps de préparer votre argumentaire. Il me semble légèrement fielleux. Le flop, évidemment, c'est la VAR. Alors, vous me direz, ça aurait pu être le flop de l'année dernière. C'est le flop depuis 2016,
ah oui, ça, c'est
quand
le flop
ça a été introduit. Mais j'en ai ras-le-bol de la VAR. Ça devient du football américain. J'adore le football américain. Mais c'est haché en permanence. Les arbitres font n'importe quoi. On est en train de tuer notre football universel que vous défendez depuis des années comme moi, Christian. Je prends l'exemple d'Everton-Liverpool en octobre dernier. 2-2. L'attentat de Pickford. Van Dijk longuement blessé. Ah ben non, on s'en fout de cet attentat parce que la VAR a signalé un hors-jeu d'un millimètre deux minutes avant ou deux secondes avant. C'est ridicule. La VAR tue le football et ce que je reproche à mes confrères ici, c'est que je ne les ai pas beaucoup vus s'élever contre ça en disant stop, sauf vous, Christian. Mais Dominique, Bruno, Karim, levez-vous et dites ah bah la VAR, il y en a marre, on est en train de tuer notre football qui n'est plus universel. Arrêtons avec la VAR.
Alors, vous avez 12 minutes pour répondre à Gilles Verdez. On va commencer par le top, Noël Le Graët, visionnaire qui doit rester en poste le plus longtemps possible. Messieurs, avez-vous...
Il tord les faits parce que il y a eu un deuxième confinement, ça vous aura pas échappé. Pour l'instant, il y en a eu un deuxième, il y en aura peut-être un troisième. Et au deuxième confinement, on a joué au football. On a continué à jouer au football. Le championnat s'est pas arrêté. Donc, la décision du 12 mars de Noël Le Graët, s'il était si visionnaire que ça, à chaque fois qu'il y a un confinement, on s'arrêterait. Donc, si on ne s'est pas arrêté la deuxième fois, c'est peut-être parce qu'ils se sont dit « on s'est arrêté, mais en fait, on est des cons ». Excusez-moi, mais on est des cons. Les Anglais ont continué, il y a eu le restart. Les Espagnols ont continué, les Italiens ont repris, tout le monde a repris. Et les seuls imbéciles qui avaient arrêté, pour des raisons qu'on n'a jamais très bien compris, parce qu'il y a autant de blessés maintenant en France, si ce n'est plus qu'ailleurs, c'est donc la France. Donc c'était un mauvais choix, maintenant on le sait, puisqu'on continue à jouer au football quand il y a d'autres confinements. Donc ça, c'est le premier argument qui est complètement fou. Ensuite, le visionnaire, il voulait Michel Denisot, président de la Ligue. C'est Vincent Labrune.
C'est, ça, c'est une élection. Battu. C'est une élection.
Non,
c'est
d'accord, mais il s'est trompé de cheval, il s'est trompé de candidat. Il pensait, moi je suis suivi cette élection de près, il se pensait qu'il n'y avait aucun souci que Michel Denisot serait président de la Ligue, qu'il formerait un attelage, qu'il allait pouvoir mettre la main sur la Ligue, parce que ce qu'il voulait, c'est qu'il veut régner, et il veut mettre des hommes à lui. Voilà. Et donc là, maintenant, il a Vincent Labrune, il n'a pas prévu le truc, il le connaît pas bien. Il voit que l'autre est intelligent, qu'il lui résiste. Et donc voilà, et maintenant, il va avoir Frédéric Thiriet dans les pattes, notamment pour l'élection de mars. Donc moi, je ne vois pas le grand homme du football français. Et en plus, quand on lui demande est-ce qu'il y a du racisme dans le football, il dit, non, il n'y en a pas.
C'est sûr qu'il n'y a pas.
Il dit, j'en entends jamais parler.
C'est sa petite
erreur. C'est une honte. Oui. C'est une vraie honte. Son mandat est une honte. Il a eu 79 ans, effectivement. Lui, c'est un bon anniversaire. Mais imaginez qu'il va continuer jusqu'à 83 ans. Et donc, pour vous, jusqu'à 87, encore 4 ans. Puis peut-être encore jusqu'à 91.
Je lui souhaite.
C'est pas ça, le foot. À un moment donné, il faut une vie.
On peut continuer sur cette ligne. Moi, je respecte la passion de Gilles, toujours mesurée sur le Grette. Après, la gestion de la fédération, elle n'est pas géniale non plus. Tous les problèmes qui ont surgi de relations humaines ont montré qu'il s'occupait un petit peu de dossiers qui brillent et pas forcément de ce qui était plus du côté sombre. Je rappelle aussi, dans le sens de Dominique, qu'en arrêtant le football français, on a commencé à creuser le trou du football français, qu'on viendra, en perdant 200 millions d'euros en ouvrant les portes. Et le troisième élément, c'est la manière dont il gère le dossier Corinne Diacre, un peu aveuglé par les yeux de l'amour pour Corinne Diacre. Et tant que je pense qu'il y a besoin de résoudre le problème entre les Lyonnaises et Corinne Diacre, et que pour l'instant, il le soutient d'une certaine manière et qu'il ne veut pas voir certains problèmes. C'est pour cela. Je respecte l'homme parce qu'il a toujours défendu ses entraîneurs, comme il a soutenu Didier Deschamps, ce qui a permis d'aller jusqu'en 2018. Mais là, en ce moment, je pense que il serait bon ton pour lui peut-être de trouver son successeur qui pourrait être Marc Keller, par exemple.
Non, simplement, deux choses. Ce ne sera pas Marc Keller pour cette fois-ci.
Oui.
Il lui faut vendre ses parts au Racing Club de Strasbourg.
Je pense qu'il veut continuer, mais peut-être l'introduiser dans le cours d'après, dans le courant de mandat.
Alors, deux choses sur le plan factuel. La gestion de Corinne Diacre du foot féminin, l'important était que les filles terminent la compétition, se qualifient pour l'Euro. Et cette gestion, elle sera faite, de mon point de vue, ça n'engage que moi, mais elle sera faite là, maintenant, puisque les compétitions s'arrêtent, avant même la phase finale, et ce sera géré.
C'est important pour l'image.
Et le problème sera réglé. Deuxième chose, si factuel, pour répondre à Dominique Sévrac, c'est toujours un peu plus facile, Dominique, sauf ton respect, de réagir après avoir eu connaissance de tous les faits à l'issue du premier confinement et du deuxième confinement. On ne savait pas où on allait au moment du premier confinement. On n'avait pas les tests, on ne savait pas quelle était la nature de gravité du Covid. Et donc, si le championnat a pu continuer au moment du deuxième confinement, c'est à l'aune de l'expérience connu et vécu lors du premier confinement.
Je ne mets pas ça en cause. C'est Gilles lui connaît les. Il a le recul pour avoir vu le premier et le deuxième confinement, puisqu'il est en train de parler au moment où on se parle.
Et on peut même dire.
Moi, je ne vous dis pas qu'en mars.
Et Dominique, on peut même dire que les politiques ont tordu le bras au monde du sport, au monde du football et à Noël Le Grette également. Je rappelle que c'est le Premier ministre devant la représentation nationale.
Parce que Le Grette faisait
du lobbying auprès du président
de la République. Il prenait son téléphone et il appelait Macron pour lui dire qu'il faut arrêter le championnat. Et Macron, il ne connaît pas bien le football français. Il a un avis du président de la fédération. Bon, ben il dit on arrête. Puisque le problème dit qu'il faut arrêter. Mais moi, je dis à ce que dit Gilles, je ne vous dis pas qu'il ne fallait pas arrêter.
Vous ne pouvez pas aller contre l'avis d'un gouvernement qui prend une décision à un moment donné.
Je pense que le football français s'est tordu le bras aussi un peu tout seul. En mettant au lèvre d'un côté, le Grette de l'autre.
C'est Le Grette qui appelle Macron pour lui dire qu'il faut arrêter.
Gilles Verdez.
Non, mais mes collègues disent qu'on n'aurait pas dû arrêter parce qu'on a perdu de l'argent, etc. Mais vous préférez perdre de l'argent ou perdre votre âme ? Moi, je vous parle d'humanité. Noël Le Grette, il a une réaction d'État.
Et votre vie. Et j'ai même envie de dire votre vie.
Mais oui,
vraiment,
exactement.
Les débats qu'on a eus lors du premier confinement.
Il a servi l'humanité, là.
Mais parce qu'il a pris des décisions sanitaires. Il a perçu, Christian le disait, il a perçu avant d'autres parce qu'il avait des informations. C'est un homme politique, il avait beaucoup d'informations. Ouais. Sur la gravité, il a dit on arrête tout, c'est ce qu'il fallait faire. C'est formidable.
En Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, ils n'ont pas manqué d'humanité. Ils ont rejoué avec logique. Alors dans ces cas-là, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait pas faire la finale de la Coupe de France. Il fallait pas faire la finale de la Coupe de la Ligue pour faire entrer de l'argent dans les caisses de la fédération.
Il voulait que ça reprenne par la finale de la Coupe de France. C'est lui qui a tout fait pour qu'on joue cette finale de Coupe de France. Bah, c'est insensé quand même.
Quand j'entends Gilles, j'ai l'impression que le football français a été parfait et que les autres ont fait preuve d'ingérence et même plus là de gravissime ingérence de reprendre leur championnat alors que ça a été fait dans des conditions de sécurité sanitaire hyper exigeantes. Et d'ailleurs, à la sortie de ces différentes reprises de championnat, il n'y a pas eu de soucis particuliers avec le Covid au sein des clubs et au sein des effectifs.
Bah, regardez ce qui se passe en Angleterre, Bruno, c'est pas à vous que je vais le dire. Actuellement, c'est territorialisé, c'est-à-dire qu'on ne joue pas partout avec un public dans les stades.
Ça n'empêche pas de jouer.
Et on joue dans le sud de l'Angleterre, je crois, du côté de Liverpool.
Oui, à Liverpool, Everton, Southampton et Brighton, ça n'empêche pas de jouer au foot.
Parce qu'on est à l'issue du deuxième confinement et qu'on a quand même une vision sanitaire et une expérience.
Il faut séparer la population des footballeurs professionnels qui jouent, qui s'entraînent dans des bulles, qui sont suivis quotidiennement par des médecins, par des préparateurs physiques, par des kinés, etc. etc.
Vous savez ce que...
Il n'y a eu aucun problème à la sortie de la reprise
du
championnat des différents pays.
Mais vous vous souvenez qu'à l'époque du premier confinement, il y avait des matchs de Coupe d'Europe qui se disputaient avec du public, qui ont servi de foyer, qui ont servi de cluster.
C'est pas la même chose.
Quand on reprend un championnat, il fallait arrêter les Souvenirs, les Italiens qui sont venus
jouer en Coupe d'Europe
à
Lyon.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Ça, c'était avant.
C'était avant le premier confinement.
Non, mais c'était avant la reprise ou non du championnat.
Oui.
On est d'accord. Le championnat était repris en juin et juillet ailleurs.
On ne nie pas le confinement.
Au bout des championnats. Si on n'avait pas été au bout des différents championnats, ça aurait été une ingérence totale des différents pays. C'est pas le cas. Et donc là, on est en train de mettre un homme, donc Noël Le Graët. Pour moi, il est sorti grandi. Il est sorti comme l'homme fort du football français. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que d'un football français qui marche complètement à l'envers. Donc on peut pas dire qu'il a été sorti grandi de cette année. C'est pas possible.
D'un football français qui marche à l'envers, mais dont il ne peut pas porter
toutes
les.
Mais qui sort de fiasco
turpitudes.
Sur fiasco.
On va parler tout à l'heure de Mediapro. On va parler effectivement d'un foot business qui semble franchir la ligne jaune ou la ligne blanche.
Mais ça, c'est le seul championnat qui a arrêté. C'est le seul championnat qui a failli arrêter une deuxième fois parce que le diffuseur n'a plus les moyens.
Et donc Noël Le Graët est le seul responsable.
Non, mais c'est le symbole du football.
C'est le sauveur dans la tempête pour renverser les perspectives.
A arrêté, mais même l'Angleterre, on parle du restart, de repartir. L'Allemagne, je ne crois pas qu'Angela Merkel soit une folle, je ne crois pas que les Länder soient des régions complètement folles. Les Allemands ont repris le 16 mai avec un match par semaine avec méthode et pragmatisme. Je ne crois pas que les Allemands qui ont été champions d'Europe avec le Bayern Munich aient de quoi s'en plaindre. Moi, je vous dis pas, on ne parle pas du 12 mars quand il arrête, on parle de pourquoi on ne reprend pas. Pourquoi M. Le Graët a dit à M. Macron on ne reprend pas.
Et
je n'ai pas la réponse.
J'ai failli oublier le flop quand même. Le flop, la vidéo, donc la vidéo sur plusieurs saisons désormais maintenant.
Moi, déshumanisation du football.
Demandons aux brebis égarés qui ont milité effectivement pour la vidéo de revenir à la bergerie on leur en tiendra pas rigueur. On entend maintenant, parce qu'avant c'était les observateurs et quelques journalistes égarés qui ne critiquaient que la vidéo. On nous disait que les spécialistes du football, les acteurs, les entraîneurs étaient pour. Et finalement, tous reviennent à la raison.
C'est difficile de ne pas être d'accord. Effectivement, il y a une déshumanisation du football qui est importante. Mais la VAR, c'est comme on ne parle que des trains qui arrivent en retard. Et bien la VAR, c'est la même chose. On ne parle de la VAR que quand il y a des erreurs manifestes. Et je suis d'accord, celle de Van Dijk, de Pickford qui le blesse gravement, c'est terrible. Mais il y a aussi plein d'actions qui sont rejugées par la VAR très rapidement et qui finalement rétablissent la justice. Mais ça, on n'en parle jamais. Le problème de la VAR, c'est qu'on a utilisé un outil sans l'étudier avant, sans savoir dans quel cas il fallait utiliser la VAR, combien de temps, le hors-jeu, les pénalties, quelles situations et combien de temps on devait l'utiliser. Quand on met 3 minutes pour décider s'il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, c'est une catastrophe. C'est terrible.
Karim Nedjeri.
Moi, j'ai toujours été contre la VAR parce que je pense que le football, c'est l'école de l'injustice.
Et la vie est injustice.
C'est-à-dire que sinon, on n'aurait jamais connu... France-Allemagne 82, on n'aurait pas connu d'autres matchs comme ça.
Maradona que vous avez sublimé tout à l'heure,
le football pour ça. Ensuite, j'irai pas jusqu'au bout. Je pense que la VAR peut nous aider, par exemple, sur les buts. Y a-t-il but ou pas? Parce que là, ça, c'est maintenant quasiment scientifique.
Ça, c'est la goal line technologie.
Gilles est consensuel. Hein, on est tous d'accord. En tout cas, cette VAR-là, ce qu'on nous propose depuis quelques années, ça marche pas, donc on arrête.
Les messages, le compte Twitter, @RTLFoot, Baptiste Durieux, on fait le match jusqu'à 20h.
Le message de Laurent sur la VAR, messieurs, justement, qui nous dit « Je déteste le Covid qui a ruiné la saison, a vidé les stades, mais je déteste encore plus la VAR qui, elle, peut être arrêtée du jour au lendemain, contrairement au Covid qu'on ne peut pas contrôler. La VAR a tué le football. » Laurent qui reprend exactement ce que vous disiez, messieurs. Puis aussi un petit message de William par rapport à l'arrêt du championnat en France. « C'est pas parce qu'on est seul à faire quelque chose qu'on a tort, certes, mais dans le cadre de l'arrêt du championnat, je vois pas en quoi ça nous a donné raison, au contraire. »
Et vous continuez de nous faire partager vos points de vue, évidemment. C'est une émission 100% interactive, filmée sur RTL.fr ou via le podcast RTL et vos messages sur le compte Twitter, notamment @RTLFoot. Une interruption publicitaire et ensuite les tops, le top, le flop de Karim Nedjeri. À tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Nous l'étions depuis 18h30. Nous avons évoqué pendant 30 minutes l'arrivée. C'est officiel, nous vous l'avons annoncé dans On fait le match de Raymond Domenech en tant qu'entraîneur pour 6 mois au FC Nantes. Nous avons également longuement disserté sur l'arrivée, qui n'est pas encore officielle, de Pochettino en remplacement de Thomas Tuchel. Depuis 19h, les tops et les flops. On a vu cela donc avec Dominique Sévrac. Son top, c'est le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Son flop, la mort de Maradona, bien évidemment. Gilles Verdez, son top. Noël Le Graët, président à vie, on va dire cela comme ça pour J'espère. Gilles Verdez. Et son flop, c'est l'arbitrage vidéo. Karim Nedjari, top et flop de la saison de l'année 2020.
Alors le flop, c'est l'année de Covid et ces stades vides. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à me remettre. Là, on se rend compte de l'importance des spectateurs, des fans, des supporters, de la musique qu'il peut y avoir dans un stade. Je ne pensais pas à ce point que ça me manquerait. Je ne supporte pas les bruits, les musiques. Je veux dire, comme des disques jockeys qui nous balancent de la musique qui va à contresens. Et j'ai l'impression qu'on a perdu quelque chose. Et si ça, ça peut redonner envie à tout le monde de retourner au stade ensuite. Et on le voit même que les joueurs, quand on voit les joueurs disent que ce n'est pas la même chose quand on rentre. C'est très dur de se motiver dans un stade vide. Et si tout le monde peut prendre conscience de ça, eh bien on aura gagné quelque chose dans cette année de Covid.
Ça, c'est donc les huis clos dans les stades de football. Et le top de Karim Nedjari.
Alors le top, j'ai voulu en ces périodes de Noël de positiver. Je me dis qu'on a vécu sans doute le plus gros chaos cette année industriel, économique dans le football mondial. Avec tous ces clubs-là qui ont endetté, on arrive à 800 millions d'euros de déficit pour tous les clubs français. Mais je me dis que de ce chaos peut naître la lumière. Et de ce chaos, c'est-à-dire que tous les clubs se mettent autour de la table et se disent comment on peut rendre le football plus sain, sans doute, plus juste. J'ai envie que les présidents de clubs redeviennent normaux, qu'ils restent à leur place, qu'ils ne recrutent pas des joueurs surcotés. J'ai envie que les joueurs se disent, tiens, si on pouvait donner du spectacle. J'ai envie que les directeurs sportifs traitent avec les agents aujourd'hui qui sont réglo et non pas ces... C'est tous ces parasites qui tirent dans le football et qui piquent l'argent à leur gré pour eux-mêmes. Et je me dis, peut-être que je suis à Noël, peut-être que je rêve, mais si au moins cette année de Covid peut nous permettre de retrouver un football qui va dans le bon sens, je me dis que ça serait ça de gagner.
Est-ce que ce n'est pas une vision un peu angélique de Karim Nedjari, messieurs, la baisse des salaires ou les salaires plafonnés, un peu de réglementation?
J'ai oublié la fin du trading.
Sur les agents et la fin du trading, à l'aune de ce qui s'est passé.
Ce qui se passe à Lille, ce que je crains le pire, je sais que mon voisin Gilles l'a dénoncé émission après émission, mais malheureusement, je pense que l'illusion est en train de s'évaporer à Lille et j'ai beaucoup de peine pour les supporters lillois.
Retour à un football plus vertueux.
Malheureusement... Le monde là, il est sur le monde d'après. Et le monde d'après risque d'être le monde d'avant en pire, comme on l'a dit. Et comme on le voit dans d'autres domaines. Depuis qu'il y a eu deux confinements, et on voit ce qui se passe après chaque fois. Il n'y a pas qu'en football. Les plans sociaux opportunistes, on profite du fait qu'il y ait le Covid, que toutes les entreprises souffrent, pour accentuer les plans sociaux, pour les faire de manière encore plus violente, pour licencier encore plus de gens. Donc moi, je ne crois pas à un monde d'après qui serait vertueux. Je ne crois pas que les gens vont se réveiller, vont se dire il faut qu'on soit un peu écolo, il faut qu'on soit moins de trading,
mais
qu'on fasse Dominique, moins...
Est-ce qu'on a le choix vraiment dans le football français?
Et moi, alors qu'on est au bord du gouffre,
si sentait qu'on n'est pas dedans.
Moi, je pense que si les gens sentent qu'ils sont en danger, la sauvagerie l'emporte.
Même dans le foot?
Partout. Et surtout dans le foot.
Et comment vous la voyez, cette sauvagerie dans le foot alors?
Le foot est un laboratoire de l'ultralibéralisme. Ce qui se passe dans le foot se passe souvent après dans la société. Mais ça se passe de manière encore plus sauvage et plus pointue dans le foot. Mais il est précurseur, malheureusement, des travers qu'on va vivre.
Alors, l'ultralibéralisme est peut-être un gros mot, mais le libéralisme n'en est pas un.
Mais en tout cas, moi j'ai envie de croire dans ce monde que nous... non pas nous définit, mais qu'envisage Karim Nedjari. Parce que je trouve que la bulle du foot, effectivement, là, elle va exploser. Elle est en train d'exploser, mais elle va exploser. Et effectivement, les stars internationales payées 36 millions par an, rien que pour le salaire, comme Neymar à Paris, ça ne pourra plus au bout d'un moment. Parce que le foot est totalement déconnecté de la préoccupation des gens et il va se reconnecter. Donc moi, je crois à ça. Je crois à la nouvelle primauté du foot amateur. Je crois à une renaissance vertueuse. Je crois à une nouvelle morale. Je crois effectivement que les gendarmes financiers vont dire mettre le holà et dire là, on n'en peut plus. Donc j'y crois. Je crois que ça va changer quelque chose. Et c'est un monde, moi, qui me plairait énormément.
Bruno Constant ?
J'aimerais y croire, hein. Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que peut-être je suis le plus jeune autour de la table, je suis un peu moins utopique que vous, peut-être, j'en sais rien. Mais J'y crois pas parce que le monde d'après, il existe déjà. On l'a vu par exemple à cause du Covid, on avait dit les clubs vont moins dépenser. Et en Angleterre, ils ont dépensé autant que l'année d'avant. On voit surtout des clubs qui travaillent moins bien. Et que ça, je ne vois pas pourquoi ça s'améliorerait. On vient de parler de Raymond Domenech qui, après 27 ans d'absence sur un banc d'un club, se rejoint à Nantes. Donc ça veut dire que les clubs français manquent d'idées, manquent d'originalité, manquent d'anticipation. Ça, j'y crois pas beaucoup. Et puis surtout, on va voir que les clubs les plus riches, ceux qui s'en seront le mieux sortis, vont asseoir un peu plus leur supériorité financière. Et que les clubs anglais s'en sortiront malheureusement, je pense, encore un peu plus. Et on voit surtout, on parle de foot, mais on ne parle pas de foot amateur. Et le foot amateur, le Covid, tout ce qui s'est passé, ça a tué le football amateur. Aujourd'hui, on joue plus dans les clubs amateurs. Il ne se passe plus rien et on ne voit pas le bout du tunnel. Il y a des associations qui vont malheureusement devoir mettre la clé sous la porte. C'est horrible, c'est terrible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire pour jouer au foot ? Eh bien, on va aller jouer dans des matchs de 5 contre 5 enfermés dans des salles où on va payer 100 € pour jouer une heure. C'est scandaleux. Donc, pour moi, non, je ne vois pas le bout du tunnel. Je suis peut-être un peu négatif ou défaitiste. Mais je ne vois pas comment on va évoluer dans le bon sens.
Karim Nedjari, je crains que votre top fasse un flop.
Non, mais j'ai envie d'y croire. Malheureusement, j'ai envie d'y croire. Oui, bien sûr que je partage la vision pragmatique à mon âge maintenant pour avoir vécu tout cela. Et chaque année, on dit on va payer moins les joueurs, on va faire le salary cap. Mais si on ne le fait pas là maintenant, il y a une décision qui était importante. C'est quand même que le gouvernement a dit non, cette fois-ci, on n'aidera pas le foot. Débrouillez-vous par vous-même. Ça, c'est important. En revanche, là où je suis un peu plus inquiet, c'est sur le football amateur, parce qu'on sait que normalement, l'argent du football professionnel devait ruisseler. Et on voit qu'aujourd'hui, là où, le tissu républicain est en train de se déchirer, l'importance des clubs français, des clubs de football. Et s'il y a jamais, si on ne s'occupe plus des jeunes, je parle en ruralité comme dans les milieux urbains, s'il n'y a plus personne, le milieu du football n'est plus là pour aider l'école à faire des citoyens, là je suis très inquiet. Il est nécessaire d'aider au plus vite les éducateurs dans le football français.
Il n'y en a plus d'éducateurs. Il n'y en a plus d'éducateurs qui veulent travailler bénévolement.
Il n'y a plus d'éducateurs, surtout, bénévolement. Parce qu'il n'y a plus les moyens d'être bénévole.
Il y a plus, ouais, peut-être.
Bah, il y a deux sortes d'éducateurs, Bruno. Il y a les éducateurs qui sont payés malgré tout, pas grand-chose, mais qui sont payés. Il y a les vrais bénévoles.
Oui,
mais
attendez. Alors moi, je vais vous prendre mon exemple. Dans un petit club d'un village de 500 habitants, je suis désolé, les entraîneurs sont bénévoles. Oui. Et aujourd'hui, dans ces villages-là, et c'est quand même la France, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus la patience.
Les petits entraîneurs sont défrayés.
Non.
Vous avez le sandwich.
Défrayé avec un sandwich.
Non, Gilles, on vous donne de quoi payer les gens.
Je t'assure que non, le bénévole est vraiment bénévole. Oui. Le sandwich, c'est pas suffisant.
Il le connaît aussi bien que Noël Le Graët, le foot amateur.
Et puis surtout, le foot professionnel, qu'est-ce qu'on va dire dans 6 mois quand le PSG va payer 650 millions d'euros pour avoir Lionel Messi ? Est-ce qu'on dit, le PSG aura changé, ils ont payé moins cher les grands joueurs ?
Il est en fin de contrat.
Oui, mais il faut le payer quand même.
Ah oui, oui,
son salaire est de 100 millions.
Oui, oui.
Ben moi, ce qui me fait peur un peu, c'est à l'aune justement de la crise, c'est qu'au contraire, les clubs les plus riches, la puissance la plus forte du football européen, en profitent et se protègent. Regardez, on parle du Covid. Moi, je me rappelle d'une des toutes premières émissions dont refait le match que j'ai eu le privilège de présenter au moment du confinement. C'était qu'on se dise que finalement, les clubs européens les plus puissants se replient sur eux-mêmes pour créer une ligue européenne fermée. On va y arriver.
Bien sûr.
On va y arriver.
Bien sûr. Et Gilles disait, la bulle spéculative est en train de s'effondrer. Mais par exemple, on parle souvent des GAFAM, donc les grands Amazon, Google, tous ces grands groupes-là, ils sont déjà, Amazon est quasiment implanté dans tous les pays européens, les grands pays en termes de pour acheter les droits. Parce que l'économie du football, elle tient par l'achat des droits. Et après, cet argent-là, il va dans les clubs, il va dans les caisses des footballeurs. Et à partir du moment où les GAFAM vont petit à petit encore s'introduire dans le football, je vois pas comment la bulle spéculative va s'effondrer. Au contraire, elle va prendre encore plus d'importance, plus d'épaisseur. Si en France, là, les droits vont bientôt être sur le marché, ils sont sur le marché, ils appartiennent à la Ligue, on ne sait pas en janvier où seront diffusés les matchs, en février, où seront diffusés les matchs. On pense que Canal+, avec beIN Sport, peut s'arranger. Mais peut-être que ça sera sur Amazon. Peut-être que ça sera sur une plateforme qu'on ne connaît pas.
Je pense que
on pourra toujours payer Neymar, pourra toujours payer tous ces joueurs-là, parce que ces GAFAM vont venir dans le football.
C'est déjà le cas en Angleterre. Hein. La journée du 28-29 décembre, l'Angleterre va être diffusée intégralement sur Amazon.
Oui, mais c'est parce que le football anglais est un spectacle mondialisé. Donc ça intéresse les GAFAM. Le problème, c'est que les GAFAM, il faut expliquer ce que c'est. C'est Google, Amazon, Facebook et tout ça. Mais en fait, ces entreprises mondialisées ont besoin d'un spectacle mondialisé. Et le football français ne les intéresse pas.
Karim, il y a Mbappé.
Oui, mais ils peuvent acheter les droits.
Il y a peut-être Messi demain.
Ils peuvent acheter les droits. Les droits du football, je ne vais pas vous faire l'offense, Dominique, vous les connaissez mieux que moi. Les droits étrangers aujourd'hui détenus par beIN Sports, c'est 80 millions d'euros.
Non, mais c'est que dalle.
C'est rien. C'est sans doute 5 fois moins que les autres grands clubs. Et je ne parle pas de l'Angleterre.
Non, mais
je pense que ça ne les intéresse pas.
Ça peut changer.
Non,
mais
Karim, c'est pour pourquoi, Karim, ça ne se vend pas ou ça se vend mal? Parce que c'est ce qu'ont reproché les présidents,
non,
également,
ce qui s'est passé,
aux diffuseurs.
C'est qu'à ce moment-là, on a bradé, pour trouver un peu d'argent, à beIN Sports les droits étrangers pour 80 millions d'euros. Et ça, ça date depuis quelques années. Donc, au prochain appel d'offres, peut-être que ça les intéressera, mais ça les intéressera s'ils récupèrent les droits digitaux aussi.
Car il y a quelques années, il n'y avait pas Mbappé, il n'y avait pas Neymar.
Mbappé. Mais non, ça va. En revanche, la Ligue fermée, avec sans doute un club français pour le moment, qui pourrait être le PSG, va intéresser les GAFAM. Mais je crains que pour Nîmes, ça soit plus difficile. Pour Dijon, ça soit plus difficile. Mais peut-être qu'on va aller sur un football qui sera un peu plus sain, avec des salaires moins honteux.
Gilles Verdez.
Après le pilier de la France, Bruno le décrivait comme moribond. C'est ce foot amateur qui est en train de renaître. Les entraînements reprennent. On a le droit. Il n'y a plus de vestiaire. Mais les entraînements reprennent. Les compétitions vont reprendre.
Non, mais c'est très dur.
Franchement, je vous assure.
Les entraînements reprennent.
Mais le monde amateur est en train de crever. Toi, tu dis les entraînements reprennent.
Les entraînements reprennent. Les jeunes reprennent l'entraînement. Là, mais bien entendu que non.
Les
compétitions vont reprendre.
C'est les petits.
Les petits. Eh bien, c'est ça.
Non, mais c'est les écoles de football. Mais à un moment donné, on parle du foot amateur. On parle des enfin plus des benjamins, des moins de 11 ans, des moins de 15, etc.
Ça serait entraîné. Non, je vous assure. Les petits reprennent, puis les moyens, puis les grands. Ça va reprendre.
Ah, ça va reprendre, mais
football,
ça ne reprend pas, Gilles.
Mais le football, c'est toujours. Le football français, c'est le foot amateur. Vous le savez très bien.
Mais bien sûr.
C'est la Coupe de France.
Mais bien sûr.
C'est la Coupe de France, effectivement.
On va les faire jouer contre. On fait une Coupe de la Ligue à l'intérieur de la Coupe de France pour sauver le truc, pour sauver le concept de ton ami Loël Le Graët, là. On va faire souffrir les clubs amateurs.
La Coupe de France.
Mais tu plaisantes. Mais tu plaisantes. Dans quelles conditions?
Mais pas moi.
Dans quelles conditions les clubs amateurs vont jouer cette Coupe de France?
Les champions. Championnats amateurs vont reprendre bientôt. On va tenter de sauver la saison. Je ne sais pas s'il y aura des montées, des descentes, mais le foot amateur
Si le boucher du coin se fait les croisés, toi, tu t'en fous.
Arrêtez, le foot amateur, c'est celui par lequel le football français s'est toujours sauvé. Et il va renaître de ses cendres très bientôt.
Mais alors, finalement, vous êtes le supporter numéro 1 de Noël Le Graët, mais vous devriez être celui de Frédéric Thiriet.
J'aime bien Frédéric Thiriet.
Qui se présente à l'élection.
Oui, d'accord, je pense.
Et lui, voilà, il faut plus football amateur. Hein.
S'il faut choisir entre les deux, je choisirais Noël Le Graët par fidélité. Mais Frédéric Thiriet, j'ai trouvé que c'était un président de la Ligue extrêmement cohérent.
Le top.
Je pouvais juste finir avant le top. Juste une dernière remarque. Ce qu'a dit Jean-Marc Furlan, entraîneur de Troyes, sur la jeunesse qui se désintéresse de plus en plus du football. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très grave parce qu'il a entièrement raison. De ce qu'on offre, ce que le football français offre en termes de vision de football, des footballs négatifs, restrictifs, on est en train de perdre les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils rêvent en regardant le Real, le Barça, Chelsea, Manchester United, Liverpool, et plus les clubs français. Et si on ne fait pas rêver les jeunes en France à jouer au foot, ils vont se détourner. Ils vont faire du vélo, ils vont faire du hand, ils vont faire du basket, ils vont faire autre chose. Donc on ne peut pas dire que le football amateur.
Autre chose aussi, c'est qu'avec cette illusion du milliard, le football est devenu invisible, illisible, et donc les jeunes ont décidé de faire autre chose. L'explosion des jeux vidéo, par exemple, fait qu'à un moment donné, ils ont cru que le football était éternel. Mais on aime le foot quand on a 5 ans et 6 ans. Et là, on a raté toute une génération. Et là, je suis inquiet aussi.
Le football visible ou invisible, en tout cas, pas dans les stades. Le huis clos, effectivement, ça, c'est le flop de Karim Nedjari.
Oui, mais je vais laisser mes partenaires
entièrement d'accord.
Vous êtes d'accord.
Vous avez le droit à deux flops et deux... Pour raconter les coulisses de l'émission, vous allez demander deux tops et deux flops. Moi, j'avais mis dans mes flops le huis clos. Donc, je suis complètement d'accord avec Karim.
Je crois qu'il y a presque pas de débat d'ailleurs.
Non, bah, et en plus, c'est vrai que ces musiques sont insupportables. Et là, les chaînes de télévision sont coupables.
Vous êtes pour ou contre cette ambiance supportée?
Tout ce qui est fake est insupportable. Rien ne remplace le réel.
Non, mais d'accord, mais après, il faut être honnête aussi. Quand vous regardez un match de foot à la télévision et que vous avez un stade où on vous met une ambiance simulée de public, de chants de supporters et un match où il n'y a pas un bruit, je suis désolé, vous êtes beaucoup plus dedans le match où il y a un peu
de bruit. Moi, je préfère, à la limite, quand il n'y a pas de bruit.
Mais parce
le
que
match
nous,
contre Bakashir.
Mais parce que nous, les journalistes, on s'intéresse à ce qui se dit.
On entend des voix, on entend des trucs. Je préfère ça que de mettre des faux bruits qui ne correspondent pas aux actions.
Ces faux bruits, c'est uniquement pour les téléspectateurs ou
dans
le stade?
Au Parc des Princes, c'est
variable.
Au Parc des Princes, c'est aussi pour les joueurs. On leur met une bande qui ne correspond pas. Ça va chanter un peu plus fort.
Donc quand Mbappé accélère, on a une clameur de public qui monte crescendo.
Ça ça peut être au moment où il y a un tacle assassin sur Neymar, il y a une clameur. Donc c'est
ou pas, parfois, quand il y a des buts, des occasions de but, et on voit, on entend la clameur du public comme s'il y avait un but, alors que le ballon est passé à côté.
Et chez donc, les inventeurs du football, en Angleterre, Bruno Constant, c'est la même chose.
C'est la même chose. Mais clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit l'importance du public. Là, je suis d'accord avec Karim, l'importance du public dans le football. Il y a, pour moi, c'est plus un foot, c'est plus un spectacle, le foot sans le public. C'est juste un sport, c'est une discipline sportive.
Mais c'est pas
or, le football a besoin du public. Et surtout, on voit l'influence du public sur le comportement des joueurs. C'est que les joueurs se dépensent plus, ont plus le dépassement de soi grâce à l'influence du public.
Allez, Gilles.
Alors, la seule bonne nouvelle, c'est l'attitude de Dembaba et des joueurs lors de PSG Başakşehir, qui, s'il y avait eu du public, n'aurait peut-être pas tout entendu, et ça a permis cette mobilisation fabuleuse contre le racisme.
Racisme présumé, en l'occurrence. Moi, j'attends toujours les résultats
présumé,
de l'enquête.
Si vous voulez.
Non, mais j'attends toujours les résultats de l'enquête. Et Dembaba, visiblement, n'a pas fait marche arrière, mais a adouci son propos et a même d'ailleurs eu une conversation téléphonique avec le quatrième arbitre. Et les choses se seraient, semble-t-il, à peu près arrangées.
C'est l'attitude des joueurs que je voulais dire.
Absolument, Gilles Verdez. Merci beaucoup, Karim, donc pour le top de Karim Adjari. Retour à un football plus vertueux à l'aune de la crise qu'il est en train de vivre. Vous l'espérez, le flop, donc les matchs à huis clos. Les messages, Baptiste Durieux, le compte @ RTL Foot.
Et justement sur ce football plus vertueux, message de Mathieu qui nous dit « J'ai envie d'y croire à cette révolution intelligente du football post-Covid, mais non, pour moi la remise en question n'existera pas, les excès vont continuer à faire des 1-2 avec l'industrie du football, la ligue fermée par exemple qui arrive en est le symbole. Il me faudrait beaucoup plus que les 280 caractères de Twitter pour vider mon sac. »
Merci à tous de votre participation, merci beaucoup à Baptiste Durieux également. Le dernier quart d'heure consacré au top et au flop de Bruno Constant, et on parlera également du Boxing Day, et j'en profite pour vous dire qu'après une heure de jeu, Arsenal est en train d'étrier, comme on dit, Chelsea. Le score 3-0. À tout de suite.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La dernière ligne droite d'On fait le match avec le procureur Gilles Verdez, avec Karim Nedjari, directeur éditorial sport chez Webedia, avec Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, et avec notre spécialiste du foot anglais et son podcast que vous pouvez retrouver également chaque semaine, Bruno Constant. Avant de parler d'ailleurs du Boxing Day, Bruno Constant, le top et le flop.
Alors comme vous m'avez posé la question, vous avez utiliser les coups de cœur et les coups de gueule.
Oui, au départ,
et
moi, je vois plus c'était ça. Coup de cœur, coup de gueule, effectivement.
Voilà, ça, c'est plus dans mes coups de cœur et coups de gueule. Mon coup de cœur, c'est Karim Benzema, qui est juste fantastique sur cette année 2020 et encore plus depuis le début de la saison avec le Real Madrid. Zidane avait posé le débat, la question de savoir est-ce que c'est le plus grand attaquant français de l'histoire. On pourra se poser la question avec Thierry Henry, avec Raymond Coppa et d'autres. Mais ce qu'il réalise au Real Madrid, il est dans sa 12e saison. À chaque fois, il arrive à être titulaire dans cette équipe. À chaque fois, maintenant, il arrive à être décisif. Même depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il a pris encore plus d'importance. Au moment où il fallait sauver son entraîneur Zinedine Zidane en Ligue des Champions contre Mönchengladbach, il a marqué, il a inscrit un doublé en Ligue des Champions. Il est l'un des meilleurs buteurs français maintenant en Ligue des Champions également. C'est un joueur extraordinaire qui se bonifie avec les années, qui a fait évoluer son jeu, beaucoup plus tourné vers les autres aujourd'hui. Décisif dans les grands rendez-vous, il s'est affiné. Moi, il me rappelle un peu Zidane dans son jeu. Il est devenu plus fin techniquement, plus juste encore. C'est quelqu'un qui a le sens de la passe, le sens du jeu. Il joue toujours dans le sens vraiment du jeu collectif. Et moi, je trouve ça extraordinaire.
Belle déclaration d'amour.
Mm-hmm. Bah, c'est tout à l'heure dans ce qu'il vient de dire, surtout.
Et d'abord, avant de valider ou pas d'ailleurs, le flop de Bruno Constant.
Et le flop, donc c'est pour ça que je dis plutôt un coup de gueule et pas un flop, c'est Kylian Mbappé. En colère contre lui.
Sujet clivant, là.
Ouais, en colère contre lui. C'est un joueur extraordinaire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais moi, ce qui me met en colère, c'est que c'est un joueur qui, depuis un an et demi, se satisfait un peu trop de son statut et de ses dribbles et de ses statistiques. Et il ne vit, j'ai l'impression, qu'à travers ses statistiques à vouloir battre des records. C'est très bien, on est d'accord, Cristiano Ronaldo le fait, Messi le fait. Mais ce n'est pas la question. Mbappé, il est jeune encore, et aujourd'hui, il doit penser à progresser. Il y a quelques mois, ou même une année à peu près, Michel Platini avait dit d'Mbappé, il faut qu'il arrête de jouer sur sa vitesse et qu'il pense à jouer avec sa tête, davantage avec sa tête. Et il avait entièrement, à l'époque, ça avait fait un tollé extraordinaire. Alors c'est quand même Platini, Ballon d'Or, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football français, et qui donnait un conseil à un jeune joueur. Et moi, j'aurais aimé qu'Mbappé écoute ce conseil, parce qu'il avait entièrement raison. Et que quand on fait les comparaisons avec Cristiano Ronaldo et avec Messi, je suis désolé, mais Ronaldo et Messi, c'est deux joueurs qui jouent avec leur tête. pas uniquement avec leur qualité physique ou technique. Et je trouve que Mbappé, depuis quelque temps, c'est un peu trop némarisé, qui veut trop faire un peu la suivre l'exemple de ce joueur et qui ne progresse pas assez et qui devrait progresser. Et que je lui souhaite aujourd'hui de quitter le PSG, justement, pour aller apprendre ailleurs, à Liverpool avec Klopp ou au Real Madrid.
On va en parler. D'abord, le top consensuel, Karim Benzema, le meilleur joueur, meilleur footballeur, meilleur joueur français, mais peut-être d'ailleurs meilleur footballeur européen cette saison.
Il a la plénitude, il progresse chaque année, en tout cas de ces 5 dernières années, il a énormément progressé, il a un jeu de tête désormais vraiment impeccable, ce qui n'était pas son point fort quand il est arrivé au Real. C'est incroyable, et ouais, c'est beau à voir, parce qu'il sait tout faire, c'est à la fois un 9, c'est à la fois un 10, c'est aussi un 9,5, il peut même se transformer en relayeur, il court toujours aussi vite, il court toujours autant, il est vraiment collectif, il ne pense pas qu'à lui. Quel dommage qu'il ne soit pas champion du monde, parce que je ne vois pas comment les Bleus de 2018 se seraient affaiblis avec lui. Il y aura cette ombre de cette carrière internationale. Pour le reste, c'est un génie du foot.
Samedi dernier, on avait eu le débat, est-ce que c'est le meilleur attaquant français de l'histoire du football français?
Et son palmarès le dit, en tout cas. C'est un des rares joueurs qui, quand on regarde un match, nous fait oublier le ballon. C'est-à-dire que parfois, on oublie le ballon, où se trouve le ballon, pour regarder ses déplacements et son intelligence. Il a une intelligence de déplacement qui est fascinante. Ils sont très rares, ces joueurs-là, qui nous permettent d'oublier que le football est un jeu individuel, souvent. Parce que tu as raison, j'aime pas ce football qui devient un football de NBA, où on sort avec les statistiques et on juge un joueur en fonction de ses passes décisives et ses places. Après, comment ça s'appelle ? Moi, j'aurais toujours un malaise par rapport à lui et un vrai regret, parce que je pense qu'il a l'intelligence et qu'il aurait dû faire un tête-à-tête avec Didier Deschamps. Il aurait dû prendre sa voiture, une grosse voiture, qui vienne jusqu'à Paris en disant à Didier Deschamps, on va s'expliquer tous les deux et qu'on puisse trouver une porte de sortie, parce que j'aurais rêvé de le voir jouer à côté de Griezmann et à côté de Mbappé. Et oui, j'ai dit...
Non,
c'est un gâchis monumental. Après, si vous permettez, cher Christian, est-ce que je peux garder... Est-ce que je peux garder l'essentiel de mon temps de parole pour répondre sur Mbappé?
Ah, bien sûr.
Très bien.
Bon, on passe à Mbappé, alors. Ouais,
quand vous voulez.
C'est le flop 2020 pour Constant. En tout cas, c'est le coup de gueule. Faut assumer, Bruno.
Oui. Alors, Bruno commence à effectuer un pas de retrait que j'aime pas beaucoup non plus.
On va pas demander un flop. Assumez,
mon cher.
J'ai donné un coup de gueule.
Mais c'est le génie français que vous assassinez en quelques mots.
Pas du tout.
Mais c'est incroyable. Nous avons l'homme absolu du football.
Vous venez de faire.
Alors, le plus grand attaquant de l'histoire du football français, c'est Kylian Mbappé. C'est déjà lui.
Pas encore.
Et là, vous êtes. Mais bien sûr que oui, champion du monde. C'est le meilleur. Il court vite. Il marque des buts. Il est extraordinaire. Il a un rôle social
il a
formidable.
Il n'a pas encore le palmarès de Thierry Henry aujourd'hui.
C'est un joueur absolu. Un homme. Ah, il est champion du monde. Absolu. Justement. Vous dites qu'il n'a pas encore.
Pas encore.
Ils sont champions du monde tous les deux. Donc, Kylian Mbappé nous a porté au titre mondial. Et là, on essaye parce que, alors oui, il court trop vite, il est trop beau, il est trop bon, il est trop tout ça. Parce qu'il est trop, vous le réduisez à un joueur qui n'aurait pas progressé.
C'est vrai qu'il faut être très franc, parce que si Mbappé nous entend, si l'entourage, bon, en même temps, on a envie de dire ce qu'on a vraiment envie de dire.
Vous dites ce que vous voulez.
Mais il y a une différence sémantique entre un flop et un coup de gueule.
C'est pour ça. Maintenant vous allez me parler sémantique parce que vous êtes en difficulté sur le fond.
Mais dans le coup de gueule, c'est parce que c'est un amour déçu.
Réponds à Bruno sur ce qu'il a dit. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce qu'il dit, il a pris l'exemple de Michel Platini, de la phrase de Michel Platini, en disant que Mbappé ne joue plus avec sa tête ou ne joue pas assez avec sa tête.
Non, il devrait jouer davantage avec sa tête.
Non, mais tu penses.
Et ne pas nous reposer son talent sur la vitesse.
Et tu dis, à la fin de ton argumentaire, tu dis Messi et Cristiano Ronaldo, ils jouent avec leur tête. Mais ton erreur majeure, c'est de comparer un joueur de 22 ans avec un joueur de 33 ans et un autre de 35. Mbappé est en tête par rapport au nombre de buts en Ligue des Champions par rapport à Messi au même âge, compare ces joueurs-là à leur âge.
Mais c'est pas ça qui compte, c'est pas les buts, on vient de le dire, non, c'est pas la NBA,
ce que je veux te dire, c'est que laisse-lui le temps de
s'imaginer. À l'âge de Mbappé, Cristiano Ronaldo était en Angleterre, à Manchester United, il y avait une adversité beaucoup plus grande.
Il n'était pas champion du monde, lui.
Il est champion du monde à 19 ans.
Ah oui,
je vois pas ce qu'on n'est pas champion du monde tout seul.
Je vois pas ce que tu lui reproches, en fait. Je vois pas. Ouais. Il plafonnerait, il serait némariserait. Bon, éventuellement, c'est des fois à la marge. Est-ce qu'on est face à un joueur extraordinaire qui chaque année progresse et qui nous enchante? Bah oui, c'est d'abord ça qu'on retient. Et il y a une petite pétouille, et toi tu vas retenir la petite pétouille. C'est très bizarre.
C'est pas une petite pétouille. Les matchs de Ligue des Champions contre Manchester United ou Leipzig, c'est des petites pétouilles.
Non,
c'est
non. C'est... Encore une fois, Messi ne gagne pas chaque année la Ligue des Champions. Arrêtez avec.
Mais ça, mais c'est pas une histoire de la gagner.
C'est à cause de ces analyses-là que le PSG se met à faire un projet individualiste.
Donc pour toi, il a progressé.
C'est pas
pour,
un joueur.
Pour toi, depuis un an, il a progressé. Il est meilleur de la tête. Il est meilleur dans les face-à-face avec les gardiens. Il est plus collectif. Pour toi, il a progressé sur tous ces domaines.
Dis-moi.
C'est un génie précoce.
Il a appris à marquer des buts.
Génie précoce qui est en ce moment dans une crise sans doute de croissance, comme tout le monde l'a vécu.
Comme Thierry Henry l'avait vécu
à Monaco. 98, sauf qu'à Monaco, quand il était là-bas, il avait la chance d'avoir un Tigana qui l'a accompagné. Et je pense qu'en ce moment, il est un peu seul et qu'il lui manque une espèce de Pygmalion qui l'aide à franchir son nouveau cap. Après, ses stats sont incroyables. Là encore, on dit qu'il est nul depuis qu'il n'a pas joué un match entier depuis 2 mois, je crois. Il est quand même en tête du classement des buteurs. En statistique, il marque un but tous les 90 minutes. Donc, mais il a besoin de passer un cap. Là, je t'accompagne là-dessus. Et j'espère que Pochettino...
Il a besoin de passer un cap, quand même.
Mais quand vous êtes champion du monde, quand vous êtes au sommet, il faut encore passer un cap.
Tu peux progresser.
Vous parlez de quoi?
On progresse à tout âge, Gilbert Delaize.
Oui, mais lui, on va être d'accord ensemble pour dire... L'idée pour lui, c'est de devenir le meilleur joueur, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, même niveau qu'un Cristiano Ronaldo et d'un Messi.
Bien sûr.
Et
Ballon d'or déjà.
Et ça fera étape par étape.
Arrêtez avec ça. Ah. Arrêtez avec ça. Parce que franchement, mon illustre prédécesseur, Pascal Praud, ici, lui prédit 3 ballons d'or. Mm-hmm. Mais c'est comme ça.
On n'en sait rien.
D'abord, on n'en sait rien. Et c'est comme ça qu'on bousille la carrière ou le parcours de certains joueurs.
Il les aura s'il les mérite et puis il les aura pas s'il les mérite.
Merci, monsieur Zapalice.
Moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez lui. C'est pas son nombre de ballons d'or. C'est ce qui m'intéresse, c'est la dose d'émotion, d'adrénaline qui nous envoie chaque coup.
Le temps nous presse. Le Boxing Day, c'est en ce moment en Angleterre. Un Boxing Day à la française, ce serait génial ou ce serait trop demandé aux footballeurs parce que c'est en Angleterre, même à huis clos ou presque, Bruno Constant, ça fait toujours du spectacle.
Alors un peu moins avec les Stade Ville malheureusement, mais la tradition du Boxing Day, donc le lendemain de Noël, c'est aussi traditionnel par rapport à l'Angleterre, le 26 décembre est particulier en Angleterre. C'est
Boxing Day à la française,
ouais, c'est sympa.
Mais évidemment,
mais c'est ce que vous dites.
Ce serait sympa, Gilles Bernard.
Très sympa, déjà on joue là, juste avant là. Hein. On a joué tard cette saison, donc moi j'ai aimé ça.
Ce que vous dites
on a joué comme d'habitude.
On a joué le 23. Ça, là, j'adore, moi.
La révolution,
ça fait un jour de plus. Oui. Donc on a gagné un jour. Merci.
La révolution du football français passera par sa capacité à inventer des concepts où le spectacle revient. Et c'est peut-être que ça fait partie de ces idées-là bonnes à mettre en place.
Mais on devrait vérifier dans les archives. Merci, Karim. Je crois qu'il y a eu une journée complète, un 25 décembre.
Mais ça ne plaisait pas aux Brésiliens qui repartaient
en France au tout début des années 60. Ouais.
Ah oui,
je crois qu'il y a eu ça.
66, je crois.
J'aurais dit 60 ou 61.
Avant que Liverpool arrive 2 fois en finale de suite, Christian, on a souvent quand même imputé au manque de clubs anglais les titres européens de Ligue des Champions, le fait d'avoir un Boxing Day pas de trêve.
Allez, les messages, bien sûr, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai aussi. Les messages sur le compte @RTLFoot avec Baptiste Durieux.
Sur Karim Benzema d'abord, oui, message Benzema. De Johan. Benzema est une formidable raison d'être heureux et une énorme frustration aussi, celle de ne plus le voir avec les Bleus. Le plus grand attaquant français peut-être, mais surtout la plus grande frustration du football français, nous dit Johan. Et puis message de Vincent sur Mbappé qui nous dit Mbappé a mis la barre très haute et donc on se doit d'être exigeant mais aussi indulgent. Il est là statistiquement mais aussi ailleurs, il fait plus de passes décisives par exemple cette saison, on attend plus, toujours plus, et ce plus arrivera, soyons patients. Et il rajoute aussi Vincent que la donne aurait changé juste pour 2 choses, s'il n'avait pas fait la passe à Neuer évidemment en finale de Ligue des Champions, et s'il n'avait pas glissé contre Manchester, on rappelle défaite de Paris 3-1, le match retour en Ligue des Champions aussi.
Merci beaucoup Baptiste, vous ne m'avez pas demandé mon top, ce sera l'arrêt du championnat, vous ne m'avez pas demandé mon flop, ce sera l'arrêt du championnat également. Merci messieurs, merci Dominique Sévrac, merci Bruno Constant, merci Gilles Verdez, merci Karim Nedjari.
Merci Christian.
Je ne souhaite pas encore une bonne année.
Non, mais bonne fin d'année à tout le monde.
Et pour quelques-uns d'entre vous, vous retrouverez Philippe Sansfourche à la présentation d'On fait le match samedi prochain. Merci en tout cas.
Qui est un top, lui. Hein. C'est un top, Philippe Sansfourche.
Oui, on peut dire ça comme ça. Ou parfois, ce n'est pas un flop, mais ce n'est pas le coup de gueule non plus. Quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, la nuance avec Bruno Constant. Merci en tout cas à vous tous. Merci de votre fidélité. Derrière les informations de 20h, Laurent Boyer, Fréquence Star, consacré à... qui aura pour invité Patrick Fiori. Demain, 18h30, 20h, les trophées RTL Sport 2020, remis à Julien Alaphilippe, champion du monde de cyclisme, et à Martin Fourcade pour l'ensemble de son œuvre. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne soirée sur RTL.